Alors,
bien sûr, le cours
est dédié les Ilou Nishma de Isaacob et Elisa, qu'Hachem accueille sa Nishama parmi les Sadikim d'Israël.
Amen.
On va. Le thème qui est choisi, en fait, il y avait un cours qui s'appelait sur la peur, et j'ai réécrit un nouveau cours dernièrement, donc j'ai décidé de l'adapter. Comme ça, vous avez quelque chose de nouveau, de Hadash. C'est marqué dans le Passouk, dans Ishaïa. Yotzer or ou boré chocher. Si on traduit littéralement, ça veut dire il forme la lumière, ou boré chocher, il crée l'obscurité. Ose shalom ou boré ra. Ose shalom, il fait la paix, ou boré ra, il crée le mal. Ani Hashem, ose kol ele, dit le Passouk, je suis Hashem, ose kol ele qui fait tout cela. Ce verset est très bizarre. D'accord ? C'est qu'on dit Yotzer or. Au bon et rocher, qu'Hachem il forme la lumière et il crée. Maintenant, vous comprenez que le mot boré en hébreu, il veut dire créer à partir de rien. Comme c'est marqué Bereshit, Bara, Elohim, et Hachem, et Hachem a créé le ciel et la terre. Le seul verbe qui sert à exprimer la notion de création ex nihilo, à partir de rien, à partir du néant, c'est boré. Donc boré, ça veut dire créer à partir de rien. Mais dans le langage, dans le passage qu'il est bizarre. Parce que yotzer, ça veut dire former. Quelque chose qui existe déjà, on va le former. Par exemple, de la terre glaise, elle existe. Maintenant, moi, je vais la former. Alors, comment on appelle le potier, celui qui va former la terre glaise? Ça s'appelle yotzer. Donc, yotzer, ça veut dire former, transformer. Mais boré, ça veut dire créer à partir de rien. Maintenant, ici, c'est marqué yotzer or. Il a créé la lumière, et il a formé la lumière, ou boré rocher. Et il a créé l'obscurité. Maintenant, nous, on dit, est-ce qu'il y avait besoin de créer l'obscurité? Il suffisait juste d'éteindre la lumière. C'est pas grave. Après, c'est marqué, Ose Shalom ou Borera. Maintenant, Ishaïa, il a fait un parallèle entre le Shalom et la lumière. Ose Shalom, il fait le Shalom. Ou Borera, il crée le mal. Donc, il y a un parallèle entre la lumière et la paix, et l'obscurité et le mal. Maintenant, tout le monde a peur quand il fait noir. Ouais. Et le mal, pour nous, c'est quelque chose de... On dit l'avenir est sombre. Pourquoi? Tu peux dire la lumière est claire, même si c'est angoissant. Non. Quoi, la nuit, c'est synonyme de peur et de tristesse. Après, il y a le fait que s'il y a cette répétition, Yotzer, Obre, Krocher, Ose, Shalom, Borera, et après, le passage qui termine, Ani Hachem, je suis Hachem, je suis l'Éternel, Ose, Kol, Ele, qui fait tout cela. Pourquoi la Torah a besoin, Ishaïa a besoin de préciser? Oui, que c'est Hachem qui fait ça. Toi, tu vois le mal, tu vois le bien, tu vois l'obscurité, tu vois la lumière. Et ça, tout ça, c'est Hachem. Alors, il y a une Gemara dans Brachot, d'Aftud Aleph. Là-bas, la Gemara demande la question, elle pose, à propos des Brachot du Kriyat Shema. Maïm Levarer. C'est quoi la bénédiction qu'on doit faire? La Gemara dit, Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Hoshaya, Yotzer Or, Boré Chocher. La Bracha qu'on fait. Ouais. Yotzer Or, qui forme la lumière et qui crée l'obscurité. La Gemara, elle pose plusieurs questions. Et à la fin, elle dit, « Ela marava, kide le askir midatiyom ba laïla, ou midat laïla bayom. » Pourquoi est-ce qu'on dit ce langage-là, « Yotzer or » ou « Boré Chocher » C'est pour être maskir, pour mentionner. Alors, « midatiyom ba laïla », ça veut dire la qualité, mais ça veut dire l'attitude, ça veut dire la situation du jour, la nuit. « Ou midat laïla bayom » et la nuit, le jour. C'est-à-dire que la Torah, elle veut que le jour, on parle de la nuit, et que la nuit, on parle du jour. C'est marqué dans la Gemara. Alors le Shulchan Aruch, là-bas, il explique, il dit comme ça, quand il ramène dans l'Alacha, la bracha qu'on fait oui, pour le Kriyat Shema, il dit « Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, yotzer or uborei chocher » qui forme la lumière et qui crée l'obscurité. Il dit « Tiknu le'askir midat laïla bayom » Ils ont institué de dire cette situation, cette mida, cette qualité, cette attitude de nuit dans le jour, les otsim ilev apikorsim, pour enlever du cœur des hérétiques, shomrim qui disent, shemi shevara or lobara kosher, celui qui a créé la lumière n'a pas créé l'obscurité. C'est que nous, dans notre esprit, on n'arrive pas à imaginer que le bien et le mal, ils font partie d'un seul ensemble. On ne peut pas imaginer que la lumière et l'obscurité, ils font partie d'un seul ensemble. On ne peut pas imaginer que les magnifiques situations qu'on peut vivre et les situations les pires qu'on peut vivre, ils font partie d'un même ensemble. Nous, on veut séparer ça. Alors, les Tanaïm, ils ont voulu, ils ont marqué dans la prière. Tu vas marquer Yotzer or Boré Chocher, tu vas mettre les deux. Tu n'emploies pas le même langage. Ouais, une fois Yotzer, une fois Boré. Mais tu vas mettre les deux à l'intérieur du langage. Et nous, on sait que Midat Yom, Midat Laïla, la qualité de jour, la qualité de nuit, ce n'est pas seulement deux phénomènes. C'est un phénomène qui s'appelle le jour, un phénomène qui s'appelle la nuit. À partir d'une certaine heure, il fait jour, à partir d'une certaine heure, il fait nuit. Et c'est un cycle. D'accord? Parce que comme dans la vie aussi, il y a des périodes où tout est clair, tout va bien dans la vie, il y a des périodes où tout est obscur, on ne voit pas comment ça va s'arranger. Ça s'appelle aussi le jour et la nuit. Il dit cette logique-là, ça veut dire que ce n'est pas seulement deux phénomènes, c'est aussi deux ressentis. Comment est-ce que la personne, elle vit le jour, comment elle vit le jour et comment elle vit la nuit. Et comment elle vit le bonheur et comment elle vit le malheur. Ce rapport-là, il est différent à chaque fois. Maintenant, il y a une notion qui est très importante de comprendre, c'est que la notion de crochère. Qu'est-ce que c'est l'obscurité? Nous, on a l'habitude de penser que l'obscurité, c'est simplement l'absence de lumière. D'accord? Mais si on réfléchit bien, vous savez que la matière, au niveau physique, la matière, elle est faite à 99,9% de vide. Vous savez ça? D'accord? C'est que toute la matière, elle est faite sous forme atomique. Maintenant, l'atome, c'est quoi? C'est un noyau avec des électrons. Maintenant, la distance qui existe entre le noyau et les électrons, en proportionnel par rapport à la taille, c'est la même distance entre Paris et Lyon. Ça veut dire 650 km. Vous me suivez? C'est-à-dire qu'entre les noyaux et les électrons, il y a déjà, en proportion par rapport à la taille, il y a 650 km de vide par rapport au plein du noyau et des électrons. Vous me suivez toujours? Mais le noyau lui-même, il est sous forme atomique. C'est-à-dire que même dans le noyau, il y a encore un noyau avec des électrons. Et dans le noyau du noyau, il y a encore un noyau avec des électrons. Ça veut dire que la majorité de la majorité de la majorité de la matière, en fait, c'est du vide. C'est du vide. Il n'y a que du vide. Il n'y a rien. C'est ça le néant. Maintenant, quand on dit que Hachem, il a été boré, il a créé, alors il faut bien comprendre une chose qui est très importante, c'est que ce que vous voyez là, par exemple, vous voyez cette barre de fer, vous la voyez, non? Oui, non? Si vous ne la voyez pas, il faut acheter un chien. Vous la voyez, d'accord. Vous la voyez. En fait, vous croyez que vous êtes en train de voir du métal, mais en vérité, ce n'est pas du métal. Ben non, c'est des molécules qui sont cumulées, c'est des atomes qui sont cumulés. Maintenant, ils sont durs, parce que l'intensité moléculaire est très forte. Maintenant, comme elle est plus dense que celle de votre bras, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à la traverser. Mais en fait, ce que vous voyez, c'est des atomes. Maintenant, je viens de vous dire que la matière, elle est faite à 99% de vide. Donc, en réalité, ça, c'est du vide. Maintenant, imagine là, déjà, il y a du vide. Donc, il y a plus de vide que là. Mais là, c'est des atomes d'oxygène et d'hydrogène, c'est de l'air. Et c'est aussi plein de vide. Et ça aussi, c'est plein de vide. Maintenant, faites l'effort, s'il vous plaît. Là, vous la voyez, la barre de fer. Maintenant, imagine, j'ai un appareil qui me permet, en visant dessus, vous avez l'habitude avec les films de science-fiction, de d'éparpiller les atomes qui sont contenus dans cette matière. Et au lieu de les mettre comme ça dans un volume à peu près de 5 cm, je vais les mettre dans un volume de 10 mètres cubes. Les mêmes atomes, vous allez les voir ou non? Non. Mais non, ils vont s'éparpiller. Vous me suivez ou non? Ils vont s'éparpiller, donc vous n'allez plus les voir. Ça va être exactement, entre guillemets, la même matière, mais éparpillée. Maintenant, quand ils ont pris cette forme-là, qui est une forme finie, qui s'appelle du métal, d'accord? Ça, sur ça, c'est la matière que vous voyez. Mais imaginez maintenant qu'avant qu'elle prenne cette forme de métal, pendant que les molécules, ils étaient en fusion et ils n'étaient pas fixés dans une forme définitive. Vous me suivez ou bien? Non? Alors, on va prendre le problème à l'envers. Au départ, il n'y avait rien dans l'univers. Il n'y avait rien. Il n'y avait que la lumière. Après Hachem, il a créé, il a été boré. D'accord? Bereshit bara. Mais alors, qu'est-ce qu'il a créé au départ? Il n'a pas créé des plantes, il n'a pas créé des oiseaux, il n'a pas créé des chiens. Qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé la molécule. Maintenant, la molécule de base, avant qu'elle prenne une forme, puisqu'après qu'il a été boré, il a été yotzer. Quand il a été yotzer avec les molécules, il a formé de l'herbe, il a formé des animaux. Mais avant ça, comment il était la molécule? Elle était en fusion. Elle était sans aucune forme. Et bien, vous savez comment on appelle la molécule éparpillée sans forme, avec un potentiel de création? Comment on l'appelle? Non, on l'appelle Rochère. Oui, on s'appelle Tobou. On s'appelle Rochère aussi. Comme ça, il dit le Malbim. C'est ça, Rochère. C'est ça, l'obscurité. On ne le voit pas. C'est-à-dire que le vide n'est pas lumineux. Le vide n'est pas lumineux. Donc c'est quoi le néant? Le vrai néant, il n'existe pas. Le vrai néant pour nous, À partir du moment où Hachem a créé le monde, il n'y a plus de néant. Parce qu'il y a toujours les molécules. Maintenant, ces molécules-là, tant qu'elles n'ont pas pris de forme, elles s'appellent Rocher. Elles s'appellent l'obscurité. Pourquoi? Parce que quand est-ce que la lumière, elle apparaît? Quand elle se reflète sur quelque chose. Comme là, vous voyez la barre de fer. En vérité, ce n'est pas la barre de fer que vous voyez, vous le savez. Vous voyez la lumière qui se reflète sur la barre de fer. Et cette lumière-là, elle se reflète sur la barre de fer et après, elle se reflète au fond de votre rétine. Et votre cerveau, il interprète cette couleur-là, cette forme, sous la forme d'une barre de fer. Parce que dans votre culture, ça s'inscrit, c'est une barre de fer. La couleur, c'est une longueur d'onde. Oui. Et la lumière, c'est une rayonnance. Donc en vérité, il n'y a que de la lumière. Voilà, vous avez tout compris. Maintenant, quand la lumière est organisée, ça s'appelle la matière. Et quand la lumière n'est pas organisée, ça s'appelle le crochet. Ça va? Voilà. Maintenant, au moment où on a organisé cette matière, on a créé une matière. Avant ça, comment elle était cette matière? On l'a dit? C'est ça le problème. Parce que c'est écrit dans le Malbim. Vous avez écouté un cours à moi qui s'appelle « Toute la lumière sur la lumière » Ah, dommage, on aurait gagné 20 ans. C'est marqué là-bas. « Vayomer Elohim Yehi Or » Quand c'est marqué « Hachem a dit que la lumière soit » C'est le deuxième passage de la Torah. Maintenant, tout le monde dit que Dieu a créé la lumière. C'est marqué « Vayomer Elohim Yehi Or » Amar Rabbi Yehuda, dit le Midrash, « Gvar Aya » La lumière, elle existait déjà. Pourquoi? Parce que la lumière, en fait, c'est quoi la lumière? La lumière originelle, c'est le Ratzon Hachem qui remplit le monde entier. Ensuite, Hachem, il a seulement transformé cette lumière pour la rendre viable. C'est-à-dire, maintenant, comment elle s'appelle la dernière niveau de transformation de la lumière? C'est ce qu'on appelle vulgairement l'énergie. Maintenant, comment elle s'appelle le système de transformation de la lumière? Ça s'appelle les sphirotes. Les sphirotes, c'est un système de transformateur pour donner à l'homme accès à la lumière divine qui est pas humaine. Parce que étant donné que la lumière de base, c'est la volonté d'Hachem, et que Hachem n'est pas humain, vous me suivez, et non seulement qu'il n'est pas humain, mais il est même inhumain. Inhumain, ça ne veut pas dire qu'il est méchant avec les humains. Inhumain, ça veut dire que l'homme n'est pas compatible avec l'essence d'Hachem. Donc il a fallu qu'Hachem se transforme pour devenir viable avec l'humain. Maintenant, l'énergie qu'on utilise, nous, celle qu'on perçoit, qui constitue la matière E égale MC2, c'est la dernière déclinaison de la matière de la volonté originale d'Hachem, de la lumière, qui a été transformée pour créer la lumière, pour créer la matière. Ça va? Ça va toujours? Voilà. Maintenant, avant que cette lumière soit figée, avant que cette matière soit posée, elle s'appelle Rocher. Elle s'appelle Rocher. Donc le Rocher, c'est vraiment quelque chose qui est créé à partir de rien, puisque c'est cette masse de molécules qui n'a pas pris de forme. C'est pour ça que c'est marqué Boré Rocher. Parce que ça, il l'a créé. Par contre, après, quand il donne une forme finie à ce Rocher, ça s'appelle Yotzer. Donc là, il crée. Là, il forme. Alors qu'avant, il est Boré. Vous suivez ou...
C'est plus loin que ce nom de Rocher.
C'est ce qui a transformé le Rocher. Voilà. Voilà. Exactement. Parce que pour nous, c'est ça le Rocher. Alors, je sais que ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais c'est pas grave, de temps en temps, on peut devenir intelligent, c'est pas mauvais pour la santé. On a rarement vu des gens tomber malades parce qu'ils sont devenus intelligents. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, ça veut dire que quand on dit Boré, c'est juste qu'Hachem, il a créé cette masse de molécules. Après, quand on dit Yotzer, ça veut dire qu'il a formé cette masse de molécules. Maintenant, quand on dit OC, il dit le Malbim, c'est le même principe que Yotzer, mais en plus évolué. Pourquoi? Parce que OC, c'est faire. OC, c'est faire le lien. Comme toi, par exemple, tu crées une société. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends un gars qui sait faire ça, un gars qui sait faire ça, un gars qui sait faire ça, un gars qui sait faire ça. Eux, tous ces gens-là existaient, mais ils n'étaient pas réunis. Toi, tu les as réunis, d'accord? Toi, tu connais le besoin du client, et tu connais le fabricant, et tu connais le lien de la matière première, et qu'est-ce que tu fais? Tu es haussé, tu crées quelque chose, tu crées, mais pas à partir de rien, à partir d'éléments qui existent. Ça s'appelle faire le lien entre des éléments. Ce que tu as créé, c'est une shlemout, c'est quelque chose d'entier. C'est pour ça que c'est marqué haussé shalom. Haussé shalom, ça veut dire comment Hachem, il met en place les éléments pour que les choses, elles fonctionnent. C'est pour ça qu'on dit que la bracha, elle n'existe que dans le shalom. Elle qui est marquée bracha qui est au shalom. Et les gens, ils croient que shalom, ça veut dire la gentillesse, le respect, la paix. Non, ça c'est pour le vécu des hommes. Le shalom, ça veut dire la complémentarité des choses, ça veut dire le lien. C'est comme si j'ai fabriqué une roue dentée, une roue avec des dents. Bon, d'accord, j'en ai une. Et après j'en ai une deuxième. Elles sont bien les deux, elles sont magnifiques. Je dis, mais tu sais quoi? Tu ne peux pas les emboîter. Viens, on les emboîte, regarde. Hop, 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 et hop, ça se met en mouvement. Les roues dentaires se mettent en mouvement. Tu vois, l'homme il est comme ça, la femme il est comme ça. Et ça, comment ça s'appelle? Ça s'appelle la dialectique. Je dis, tu dis, je dis, tu dis, je dis, tu dis. Ouais, toi t'es là, toi t'es là. Et on se marie. Ta, on fait un mouvement. Oui, toi t'es là, toi t'es là. Toi t'as un cerveau et moi j'ai des forces. On se met ensemble. Toi t'as de l'argent et moi j'ai des idées. On se met ensemble. Ça. Maintenant, ce qui fait que le mouvement est créé, c'est le shalom. Mais pas le shalom parce qu'on est gens qui s'entendent bien. Non, c'est parce qu'on a relié des éléments qui étaient séparés, on les a mis ensemble. Le fait de ensemble s'appelle shalem. Shalem c'est shalom. Maintenant, le mouvement qui est créé par la connexion des choses pas entières qui deviennent entières, s'appelle avraham. En kiri marzik shalom kemo bracha. Vous me suivez ou non? C'est ça la bracha. Parce que toi, t'as les moyens et tu trouves l'opportunité. Tu dis, c'est pas possible. Des diamants pas chers comme ça. Mais il faut payer cash. Mais tu as les moyens. Toi, tu dis, mais tu n'as pas les moyens, mais tu es devant l'affaire. Tu dis, c'est pas possible. C'est pas possible. 6 carats, combien tu dis? 1000 euros. Oui, parce que ça vient d'Afrique, c'est un peu très loin. Mais il faut les acheter tout de suite. Waouh! Tu peux pas?
6 carats, c'est 1 million.
J'ai compris. Oui, oui, mais ça s'appelle une opportunité. Opportunité, ouais. Mais si c'est pas possible, tu vas mourir. Pourquoi? Parce que tu as l'argent, mais tu as l'opportunité, tu veux l'argent. D'accord? Et toi, c'est pareil. On t'envoie une fille extraordinaire, et tu commences à faire du difficile. Elle est un peu maigre, Et après, elle s'est mariée. Et toi, tu dis, je suis malade. Et tu rencontres une fois après l'autre. Tu mets l'été devant moi. Il fallait juste que les roues dentées, elles se relient. Et ça fait de malin. Ah, pourquoi je vais marier avec la première ou le premier? Peut-être je vais trouver plus beau. Et voilà. Grâce à Dieu, 68 ans, je ne suis pas marié. On peut dire que tu as eu le choix. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait le shalom. Tu n'as pas fait le shalom. C'est quoi le shalom? Le shalom, c'est pas la paix, encore une fois. Ça, c'est le basique. Ça, c'est la traduction. Ouais, chaque équipe, c'est les mêmes lettres. Non. Shalom, ça veut dire c'est de fabriquer de la shlemout. Le shalom, c'est une dynamique. Tu fabriques du shalem. D'accord? Maintenant, le problème, c'est que tu ne peux fabriquer du shalem que parce qu'avant ça, il y avait de l'incomplet. Maintenant, comment on appelle le sentiment de l'incomplet? On appelle rocher. C'est pour ça que quand tu vois quelque chose qui ne fonctionne pas, ouais, par exemple, imagine une demi-heure avant Shabbat, tu as invité toute la famille pour la bar mitzvah et les plombs, ils sautent. D'accord? Parce que tu as mis 6 plaques électriques, tu as mis de la lumière en bas, tu as mis des trucs dans le jardin, tu as mis des ventilateurs. Et ça saute les plombs. Alors qu'est-ce que tu dis? C'est une phrase très bizarre. Ça pète les plombs. Maintenant, il est une demi-heure avant Shabbat, ça pète les plombs. Tu as tout organisé, là-bas, les cilias, tu as mis tout est bien, et les plombs, ils sautent. Il y a 250 personnes qui viennent pour passer Shabbat. Et les plombs, ils sautent. Alors qu'est-ce que tu dis? Le mot, il est bizarre. Regarde, qu'est-ce que tu dis? Au lieu de te dire, comment ça se fait que ça marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Tu dis, non, tu dis, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. C'est pareil, quelqu'un il t'a planté. Mais non, c'est pas quelqu'un que tu connais pas. C'est le gars que tu connais, c'est le gars que tu as confiance, c'est le gars que tu travailles avec lui depuis 20 ans. Il t'a planté. Tu dis pas que tu es un tricheur, tu es un voleur, tu es un rachat. Tu dis, c'est pas vrai. Non, pas toi. C'est pas vrai. Mais c'est quoi c'est pas vrai? C'est quoi c'est pas vrai? Mais c'est vrai, voilà, c'est vrai. Voilà. Ça c'est vrai, ça. Ça c'est vrai. Le gars il est là, c'est vrai. Voilà les preuves, le détective, il dit, monsieur, on a toutes les photos. Votre femme vous trompe depuis 10 ans. Quoi? C'est pas possible, on est marié depuis 8 ans. Oui, mais elle est précoce. C'est quoi cette idée? Et toi tu dis, mais c'est pas vrai, mais c'est pas possible. Et toi, ma chérie, mon amour, mon cœur, tout ça, c'est tout ça, c'est faux. La façon faite un test de paternité, sûrement les 4 enfants sont pas de vous. Ah! Mais c'est pas vrai! Mais faut pas dire c'est pas vrai! Car un point il peut vrai! Vous me suivez ou non? C'est évident, non? Pourquoi? Parce que ce n'est pas vrai.
C'est-à-dire que je n'arrive pas à quoi?
Non, c'est pas ça. C'est pas une question que je vous pose. C'est une interrogation qui vous prépare à ma réponse. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est pas vrai. Ça veut dire, parce que émet en hébreu, émet, ça veut dire la vérité. Mais émet, c'est comme matim. Matim, c'est adapté. Maintenant, quand moi je suis pas adapté à une réalité, je dis qu'elle n'est pas vraie. Mais c'est pas que c'est pas vrai, bien sûr que c'est vrai, tu vois la photo, objectivement, ouais, de manière pragmatique, tu perçois, non, tu vois, c'est-à-dire quoi, c'est pas vrai? C'est pas vrai, ça veut dire, anilo matimazé, je suis pas adapté à ça, moi. Oh, je suis pas adapté à un truc pareil, amène-moi un truc normal, c'est pas adapté. Alors tu sais qu'est-ce que tu fais quand tu vois que t'es pas adapté? Tu sais pourquoi? Parce qu'à cause de la lumière, alors qu'est-ce que tu fais? Tu reviens dans votre chair. Tu veux pas la lumière. Tu veux pas la clarté. Bon, les psychologues, ils appellent ça le déni de réalité. Le transfert de culpabilité. Il y en a même qui font des transferts d'existentialité. C'est ce que ça veut dire, un transfert d'existentialité. C'est-à-dire que tu demandes à l'autre d'exister à ta place. Pourquoi tu ne m'as pas soutenu? Pourquoi tu n'as pas agi quand j'ai eu besoin de toi? Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Mais je ne suis pas à ta place. Si, vas-y, sois à ma place. Je ne peux pas être à ta place. C'est-à-dire que la personne, elle te reproche de ne pas être elle. Mais je ne peux pas être toi. Oh. J'ai lu un truc, mais ça fait peur. Je vous le dis ou je ne vous le dis pas? Vous êtes prêts à écouter ou vous êtes bien?
Oui.
Allez-y. J'ai lu un truc incroyable. Vous savez, on a lu dans la paracha, Priyar Tokriyar et Amitefa. Tu dois réprimander ton ami. Bon, c'est une mitzvah de réprimander quelqu'un qui fait du mal. C'est une mitzvah. Maintenant, j'ai lu ce Shabbat dans un sefer, il raconte comme ça. Il dit que quelqu'un. Comment on réprimande quelqu'un en général? Parce qu'on voit chez l'autre, on réprimande. On voit quelque chose chez l'autre qui n'est pas bien. Mais tu sais pourquoi on trouve que c'est pas bien? Parce que nous, on fait le contraire. Par exemple, moi, je ne dis pas de la shonara, je vais voir que l'autre, il fait du shonara. Alors ça m'énerve que l'autre fait du shonara. Alors je lui dis, pourquoi tu fais du shonara? Justement, je ne fais pas de la shonara. Oui? Je vais voir quelqu'un qui vole. Pourquoi je vais remarquer qu'il vole? Parce que moi, je ne vole pas. Alors je vais dire, pourquoi il vole celui-là? Ok. Alors il raconte une histoire incroyable. Il dit, un homme, il meurt, il arrive à 120 ans là-haut. Il arrive à 120 ans. Et on lui dit, voilà toute l'avérote que tu as fait. Et lui, on lui rajoute plein d'avérotes qu'il a pas fait. Il dit, mais je m'excuse, ok, ça c'est le digne de, c'est le bel digne de Emmet. Alors comment ça se fait? On me met des avérotes sur moi que j'ai pas fait. Il dit, non, ça c'est pas les avérotes que tu as fait. Ça c'est les avérotes que les gens ils ont fait à cause de toi. Vous me suivez ou non? Des gens ils t'ont vu faire une bêtise. Alors ils ont dit, ah ben on a le droit de faire cette bêtise, ils l'ont fait. C'est comme si toi t'as mis la minuterie sur la télé, d'accord? Donc vendredi soir, paf, il y a le match. Ton voisin qui n'est pas religieux, il dit, mais on peut regarder la télé. On regarde celui-là avec sa barbe. Je vois la lumière de la télé. Alors il va mettre la télé maintenant. Tu dis, on a le droit de mettre la minuterie. Bien sûr qu'on a le droit. Bien sûr. C'est comme si toi tu vas dans un cinéma bizarre. C'est un cinéma qui est ni pour nous, ni pour vous. Un bizarre. Maintenant toi tu as été parce que tu devais ramener les téphilines au gars qui travaille là-bas. Quand tu ressors, ton voisin te voit. Ça a été l'après-midi? Alors il raconte là-bas dans le CFR qu'on va te compter les avérotes qui ont été faites à cause de toi parce que les gens, quand ils t'ont vu faire quelque chose, ils ont mal compris. Alors le gars qui a été accusé, il dit, mais je comprends pas, ils avaient été à me juger les 15 autres, pourquoi il m'a pas jugé du bon côté? Parce que chaque chose, j'allais dire circonstance, tu crois que j'ai fait pour rien? Et c'est vrai, la preuve, comment nous on fait des avérotes? Parce que sur chaque avéra, on a une explication. Mais le gars qui me voit, il ne connaît pas l'explication. Lui, il ne sait pas que j'ai besoin de la vitamine D du soleil. C'est pour ça que je vais dans les plages mixtes. Lui, il voit quelqu'un qui voit dans la plage mixte. C'est tout, il ne voit pas la vitamine. Il voit qu'on est tous malades, qu'on a besoin des vitamines. Lui, il voit la plage mixte. Ouais. Donc maintenant, il te fait. Lui, il dit, quand toi, l'autre, il a vu que tu as vu ça, que tu fais ça, donc lui aussi, il pense qu'il a le droit de faire ça. Alors lui, il dit ça, mais je comprends pourquoi vous m'accusez de ce que les gens ils ont vu parce qu'ils ont fait parce qu'ils m'ont vu. Ils auraient dû juger du bon côté. Allez, non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que, regarde bien, écoute bien. Comment toi, t'as réprimandé l'autre? Parce que tu as vu le mal chez l'autre. D'accord? Comme tu as vu le mal chez l'autre, t'as été à l'autre, à dire à l'autre, tu sais, c'est pas bien ce que tu fais. Mais pourquoi tu as vu le mal? Pourquoi tu as pas vu le bien? Bah, parce que là, il y avait du mal. Ah bon? T'as déjà vu quelqu'un que quand l'autre, il va du bien, il va le voir, il me dit, tu sais, collatéral, pour la maison de café, je suis très fier de toi. Non? Pourquoi tu vas pas le voir quand il fait du bien? Pourquoi tu vas le voir quand il fait du mal? Il dit, si t'étais capable, toi, d'aller voir l'autre quand il fait du bien, d'accord? Donc pour aller l'encourager, parce que quand la carotte, que bravo, que tu as fait du bien, donc Hachem, il aurait dit, mais celui-là, je ne peux pas le juger pour le mal qu'il a montré aux autres, puisque lui, en fin de compte, il a toujours encouragé le bien chez les autres. Ça veut dire que Hachem, il va te juger comme toi, tu es jugé. Vous me suivez ou là? Donc on ne peut pas te compter, et c'est comment ça marche? C'est parce que quand je vais réprimander l'autre, si moi je regarde le bien de l'autre, et je regarde le mal de moi, par exemple, je vois un non-religieux qui fait le schéma. Ouais. Qu'est-ce que je dois dire? Je dois dire, tu te rends compte, ce gars-là, il ne connaît rien. Il fait le crâne schéma. Et moi, que je sais étudier, j'ai même pas fait deux pages de Gemara aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vois ce qui ne va pas chez toi et tu regardes le bien de l'autre. Alors, comme tu regardes le bien de l'autre, on ne peut pas te reprocher le mal que j'ai chez toi. Parce que le mal qu'il y a chez toi, tu te l'es déjà reproché. Mais on ne peut pas te juger mal non plus. Pourquoi? Parce que toi, tu juges bien les autres. Premièrement. Et deuxièmement, c'est que quand toi, tu as vu le bien de l'autre, quand tu vas lui faire un reproche, l'autre, il va accepter. Tu sais pourquoi? Parce que ton reproche, il est basé sur quelque chose de bien. Par contre, quand toi, tu refais un reproche à l'autre qui est basé sur quelque chose de mal, parce que justement, tu as vu le mal, l'autre, il se sent agressé, il se sent remis en cause, il se sent mal, il n'accepte pas ta réprimande. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas une réprimande d'amour. C'est une réprimande de transfert. Peut-être même que toi, tu serais bien content de pouvoir faire ces avérotes là, mais quand tu as fait tchouva, ça t'angoisse. Alors tu te dis, tiens, je vais en angoisser un autre. Mais si toi, tu es content de faire tes tchouva, donc tu dois être content quand l'autre fait tes tchouva. Tu dois être content quand l'autre étudie la Torah. La preuve, c'est que tu ne vois même pas qu'il a fait du mal, tu vas le voir pour le bien qu'il a fait. Et comme tu vas le voir pour le bien qu'il a fait, l'autre, il accepte le bien, il grandit. Mais si toi, tu ne vois que le mal, c'est qu'au fond, même le bien que tu fais, tu le vis mal. Ça va? Donc, ce que tu vois le bien là-bas, ça fait que tu vois la lumière. Maintenant, si toi, tu vois le mal, c'est parce que ce mal-là, il vient du rocher. Les psychiatres, ils disent, tu transfères l'amour que tu contiens. Les gens tristes, c'est des gens qui transfèrent leur angoisse. Ils ont une angoisse, ils transfèrent leur angoisse. Des gens comme ça, ouais. Maintenant, pourquoi tu transfères de l'angoisse? Pourquoi tu transpires de l'angoisse? Pourquoi tu exprimes de l'angoisse? Rav Dessler, il a dit une chose incroyable. Écoutez bien. Il dit « Adam shanafu korimoto adam lo simpati » Un homme qu'on appelle quelqu'un qui n'est pas sympathique, il a dit « Mistama mina Torah zenikre sinakrinam » C'est quoi la haine gratuite? Pourquoi tu fais la gueule? Comme ça. Pourquoi tu critiques? Comme ça. Pourquoi tu parles mal? Comme ça. C'est sinakrinam. Nous, on croit sinakrinam, la haine gratuite, c'est quelqu'un qui est méchant, qui veut le mal. Non, c'est rien que quelqu'un qui fait la gueule. Ça suffit, j'ai besoin de... C'est pourquoi non? Sois souriant, sois positif. Ok, on a tous des malheurs dans la vie. Alors, qu'est-ce que tu veux maintenant? Allez, mais moi, c'est différent. Et puis, vous ne comprenez pas. Personne ne m'aime. Les gens sont méchants. Ils sont méchants. Tu le regardes, tu dis pas de tout. T'as compris cette logique-là? Eh bien, je te pose la question, à ton avis, cette tronche-là, cette tronche de quai, cette expression de la souffrance, cette commémoration de la mort, elle vient du haut ou du rocher?
Du rocher.
C'est ça le problème. Mais quand toi tu la vois, elle te fait comprendre des choses, ça fait du or. C'est pour ça qu'en français on dit, ton attitude m'a éclairé. Quand j'ai vu le fumeur, j'ai compris pourquoi il ne faut pas fumer. Quand je l'ai vu fumer, quand je l'ai vu nerveux à cause de la fumée, quand je l'ai vu nerveux le Shabbat parce qu'il n'a pas la cigarette, quand je l'ai vu mal parce qu'il ne trouvait pas des cigarettes, ben j'ai dit, celui-là, merci, Kol HaKavod, pour la lumière que tu m'as donnée de ton obscurité. Quand j'ai vu les enfants du nerveux, comment ils sont tous asthmatiques, j'ai compris pourquoi il faut être calme. Quand j'ai vu la femme du coléreux qui est terrorisée, j'ai dit au terroriste, au coléreux, ouais, je lui dis merci, tu m'as appris qu'il faut être doux avec les gens. Merci. Ton obscurité, elle a été ma lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisqu'on a dit que ce qui est en fusion, ça s'appelle le néant, ça s'appelle l'obscurité, d'accord? Le néant, le rien.
Le vide.
Le vide, ouais. Et qu'en fin de compte, avant, quand Hachem il a été boré, il a créé cette masse de molécules sans forme. Donc en fait, c'est quoi le crochet? C'est l'avant-lumière. Une chose qui doit devenir lumière, avant ça, elle est crochet. Donc c'est comme si le crochet c'était le potentiel. Et la lumière, c'était la réalité. Maintenant, le problème, c'est que si tu laisses la chose au niveau du potentiel, elle n'arrive jamais à la lumière. On dit en français, il faut réaliser. Il faut réaliser. Tu as une idée, il faut y aller. Tu as une bonne impulsion, il faut la faire. Tu as une bonne pensée, tu as une bonne parole. Tu sais, les gens, ils sont là. Tu vois, l'autre, il fait la tête, toi, tu fais la tête, toi, tu fais la tête. Tu te sens, il est bizarre. Ouais, Mitmol, tu le chômes, il a une autre tête. Plein de solutions. Toi, tu veux lui dire, toi, je vais le voir, tu dis, bonjour, ça va, qu'est-ce qui se passe? Et tu vois, il commence à parler. Oui, je voulais te dire, je suis pas bien, je suis angoissé. Là. Après une heure que le truc, tu te dis, si, ça m'a fait du bien de parler. Tu voyais que sa gueule, il était trop cher. Maintenant, tu as vu, quand il a parlé, il a fait sortir ses nerfs, sa haine, son malaise, sa peur, son angoisse, son complexe. Maintenant, son visage, il est bien, il sourit, il est bien. Il est passé de l'ombre à la lumière. Donc en vérité, ce qui est rocher et ce qui est marchir, c'est la même chose. Ce qui est obscur et ce qui rend obscur, c'est la même chose. Parce que la preuve, je te dis, on dit en français, son sourire a illuminé son visage. Mais est-ce que dans le sourire, il y a une ampoule? C'est bizarre, non? Dans le sourire, il y a une ampoule que ça illumine. Ouais. Pourquoi on dit que les tzadik, ziv a shekhina, la lumière de la shekhina? Pourquoi on dit ziv panav shel tzadikim? Pourquoi le tzadik, il a un visage qui est lumineux? Mais c'est, qu'est-ce que tu crois que c'est quoi comme lumière? Il a un néon à l'intérieur. Quoi? Il se balade avec un projecteur sur la tête? Non. C'est parce que ce or-là, c'est quoi on a dit? C'est la réalisation. Mais le tzadik, il est en réalisation perpétuelle. C'est que sa neshama, elle se réalise perpétuellement. Et bien, ce que tu vois apparaître à l'extérieur, c'est la lumière de la neshama. Par contre, le racha, lui, il ne se réalise pas. Parce qu'il a une paroi extrêmement puissante qui s'appelle l'impureté, qui s'appelle la klipa, qui s'appelle le complexe, qui s'appelle l'orgueil, qui s'appelle la lourdeur, qui s'appelle l'itzara. Donc, Enoyote, la poal, il ne se réalise pas. Donc, il reste rocher. Et on voit sur sa tête qu'il est rocher. C'est-à-dire, bizarrement, les gens qui ne dorment pas la nuit, ça se voit. Les gens qui dorment dans la rue, ça se voit. Les gens qui prennent des choses bizarres, ça se voit. Les gens qui sont mal pendant des années, on dit en français, ils ont été marqués par la vie. Dis-moi, depuis quand la peau, le visage, les rides, ils prennent la marque de la souffrance? C'est bizarre, non? Les trois quarts. Bon, on va éliminer les herbes qui sont pas décidées, blanc, noir, d'accord?
L'âge joue aussi. Hein?
Oui, mais c'est quoi l'âge? Là, c'est l'expérience et la conscience. D'accord? Maintenant, si quelqu'un il est inconscient parce qu'il est un peu attardé, tu vois, il a une tête d'enfant. Tu sais pourquoi il a une tête d'enfant? Parce qu'il ne connaît pas la gravité de la vie, parce qu'il est baha. D'accord? Mais quelqu'un qui comprend, plus il rentre dans la réalité, plus il rentre dans la réalité, ça veut dire que quelqu'un qui est intelligent, c'est un combat quotidien de rester optimiste. Maintenant, quelqu'un qui est vrai, quelqu'un qui est mal, c'est facile d'être optimiste. Il n'a même pas compris qu'il y a un problème. C'est facile, il ne voit rien. Il ne voit rien. Ouais, il ne comprend pas, il dit, mais c'est quoi le truc? Vu que tu as planté 20 milliards d'euros, je t'en prie, c'est quoi? De qui il parle? Il raconte quoi? Il parle d'argent, là, de quel argent? Mon argent? Il n'a pas compris. Oui, donc toute la ville est au courant que sa femme le trompe, sauf lui. Lui, il est atteint d'une maladie qui s'appelle la NIA. Il voit, simple, ouais, il voit rien. Alors il est heureux. Tout le monde se moque de lui, tout le monde lui dit, alors il commence à pousser, il comprend pas. Alors, toujours avec une chance extraordinaire. Oh, c'est pas possible une chance extraordinaire comme ça. Tu dois avoir un petit doute quand même, non? Rien, il voit rien. Non, pourquoi? Parce qu'il en dort de la réalité. Donc c'est vrai que la réalité fait grandir, c'est vrai que l'expérience elle fait grandir, elle fait vieillir, c'est vrai. D'un autre côté, tu dois compenser que si tu augmentes l'intelligence, il faut que tu augmentes automatiquement la joie. Comme si quelqu'un il augmente la finesse d'esprit, il doit augmenter le lekav zochout, de juger positivement. Parce que sinon, avec sa finesse, il va devenir un tueur, il va tuer les gens. Donc il est obligé d'augmenter l'amour de l'autre. Si tu es intelligent chez l'autre, il faut que tu aimes plus l'autre. Parce que si tu aimes moins l'autre, et que tu es intelligent chez l'autre, tu vas être heureux. Avec ton intelligence. Tu vas dire des mots méchants, tu vas donner des définitions, tu vas scanner, tu vas détruire. Mais pour le bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toujours des systèmes de compensation. Mais en vérité, réfléchis bien. Que quand toi, tu augmentes le rocher, ouais, tu augmentes la lumière. Mais par contraste, la lumière, elle augmente le rocher. Pourquoi? Parce que quand tu éclaires ici, il fait plus sombre ici. Ils appellent ça en français des zones d'ombre. Maintenant, Hachem, il est gentil avec nous. Ouais. Qu'il nous met des lumières quelque part pour qu'on ne voit pas des choses qu'on ne devrait pas voir. Des fois, tu te rends compte que tu apprends une chose au dernier moment. Pourquoi? Parce qu'il y a le bon Dieu, il savait que tu ne supporterais pas. Donc, il ne te l'a pas dit maintenant, il te l'a dit plus tard. Parce que si tu l'avais dit avant, tu serais devenu fou. Donc, il te l'a dit doucement. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la lumière ici, comme ça, tu ne vois pas. Il y a dans l'obscurité là-bas. Et la chose, elle se prépare. Et le contraire aussi. Quelque chose d'extraordinaire, ça se prépare. Alors arrête de te plaindre. Puisque le bon Dieu, il est en train de te préparer quelque chose d'extraordinaire. Mais comme toi tu râles tout le temps parce que tu voudrais que ça aille avec ton timing à toi, alors des fois le bon Dieu dit ok, on va suivre ton timing, des fois il va dire non. Et comme toi tu t'es découragé avant que le timing du bon Dieu il arrive, le bon Dieu il va dire pourquoi je vais m'investir pour quelqu'un qui ne croit même pas à mon timing à moi. Donc il n'allume pas la lumière.
Vous demandez beaucoup.
Ben, je sais, je demande beaucoup.
Parce que parfois dans la vie c'est très très difficile. Si moi je dis c'est difficile, la réponse c'est que ah, parce que le bon Dieu va te mettre à la veuve, parce que parfois on n'arrive pas.
J'explique.
Parfois c'est très 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 difficile.
J'explique de quoi, à quoi il sert ce cours. Je rappelle pour les gens qui sont peu au courant qu'il ne s'agit pas d'un dessin animé, ni d'une série télévisée pour les débiles mentaux. Ouais. En fait, on est tous imbriqués, et moi le premier, dans une direction. C'est-à-dire on regarde une direction. On regarde vers là où on veut aller. Je ne vous parle pas de ce que vous avez atteint. Je n'ai pas demandé ici est-ce que 2 plus 2 égale. Oui. Non, je parle de quelque chose qu'on doit aller, une direction vers laquelle on doit aller. Maintenant, ça s'appelle avoir un projet, avoir une ambition dans la Roukhani ou dans le spirituel. Moi, toujours, je donne cet exemple. Vous savez, en Australie, ils font des courses de lévrier. Vous avez déjà vu ça, non? Ils font des courses de lévrier. Comment ils font? Il y a des lévriers, des chiens qui courent très vite. Ils les mettent comme ça, comme des chevaux de course. Et sur le côté, il y a un rail, et sur ce rail, il y a un petit lapin en plastique. Et tous les chiens, ils courent après le lapin. Mais le lapin, il est en plastique. Vous suivez ou... Alors, jamais il y a un chien, même celui qui a gagné, à la fin, il a mordu, il a vu que c'était du plastique, il n'a pas dit à ses copains, les gars, arrêtez de courir, le lapin, il est en plastique. De là, on apprend une grande logique. Qu'en fin de compte, attraper le lapin, c'est pas intéressant. Ce qui compte, c'est de courir. Vous me suivez ou non? Faire une grande famille, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est entre le moment où tu t'es marié et au moment où t'as marié le dernier, est-ce qu'il y avait du bonheur entre les deux ou il n'y avait que de la meuf? C'est pas intéressant de gagner beaucoup, beaucoup d'argent. C'est de savoir, est-ce que cet argent-là, il t'a amené à Kiddush Hashem, il t'a amené à l'équilibre, il t'a amené du bonheur, ou il t'a amené des nerfs, de la haine et de la vengeance et de la rancune que la moitié de la ville, elle veut ta mort. Donc on court tous après de toute façon, après un lapin en plastique. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est de courir. Quand tu cours, tu lances tous les jours. Excuse-moi, mais ta Torah, à côté de la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est les évangiles. Alors tu cours après un lapin en plastique parce que tu ne seras jamais Rabbi Akiva Eiger. C'est vrai, mais le bon Dieu, il ne m'a pas dit d'attraper Rabbi Akiva Eiger. Il m'a dit de courir, alors je cours. Maintenant moi je cours avec un projet. Alors, c'est pareil, je vous donne des idées qui sont des grandes idées. C'est des idées qui sont développées dans le Malbim. C'est des idées qui sont développées par des grands Chachamim. C'est des idées qui sont développées dans la Kabbalah. Ouais, pourquoi je ne vais pas vous donner du grand? Pourquoi vous êtes petit vous? Et comment quelqu'un grandit s'il n'a pas de projet? Maintenant, il y a des rabbins qui vont vous dire, c'est déjà pas mal ce que vous faites, c'est mieux que rien, grâce à Dieu. Vous n'êtes pas des goïms, vous n'êtes pas des païens, vous n'êtes pas des idolâtres. Qu'on a carole, bravo, je suis fier de vous. Allez, ouais. Je dis non. Moi, comme les enfants, je leur montre très haut. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de baisser ses fers Torah. Celui qui l'embrasse, il monte. Même si quelqu'un est un enfant, il faut le monter. Même si quelqu'un est vieux, on ne va pas baisser ses fers Torah. On va le soulever pour que lui il embrasse ses fers Torah. C'est pour ça que les Shivot, elles sont toujours en haut des côtes. Toujours. Parce qu'il faut que tu montes. Miyale Be'ar Hashem. Donc moi je vous donne une direction qui est loin. Moi je parle pour vous. Moi je parle pas pour vous. C'est vous qui assistez à mes problèmes personnels. Moi, pour moi, bon, je lis un cours, je cherche pour moi comment est-ce qu'on peut encore pousser les limites. Et si quelqu'un m'a dit oui, mais ça peut être anxiogène. Oui. Alors je vous donne le secret. Le secret, c'est que même si tu fais le quart, même si tu fais le dixième, c'est déjà énorme. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce que tu as fait? Tu as créé un mouvement. Ça s'appelle le guidoul. Ouais. Tu pousses, tu grandis. Maintenant, tu as grandi un centimètre, tu as grandi 40 centimètres. Le bon Dieu, il appréciera. Alors, si tout ça, ça t'a fait donner grandir 20 centimètres et que c'était le centimètre que tu pouvais grandir, c'est pas passé à l'aide du centimètre. Maintenant, si tu pouvais faire 4 mètres, et t'es resté dans tes 3 cm parce que tu es traditionnaliste, le bon Dieu il va dire alors pourquoi on t'a donné toute cette lumière pour que tu restes dans le rocher? Donc celui qui a une grande épreuve, ça veut dire qu'il a beaucoup de recherche. Mais ce recherche-là, il est en phase de transformation pour devenir du or. Puisqu'on a dit « Osé shalom, yotzer or ». Donc c'est quoi le shalom? On a dit c'est quand les éléments ils se réunissent. Quand ils sont séparés, c'est des particules séparées. Mais quand c'est réuni, c'est une barre de fer. Quand ils sont réunis, c'est une famille. Quand ils sont réunis, c'est un business. Quand ils sont réunis, c'est une élection. Ouais. Mais il faut réunir les choses. Vous me suivez ou non? Maintenant, quand toi tu travailles à faire le shalom, en vérité tu réunis les choses. C'est pas évident d'aller voir son mari et de dire écoute, bon, je m'excuse, je voudrais qu'on parle. C'est pas évident d'aller voir un concurrent et de dire écoute, on est en train de se battre pour rien, on perd des centimes. Tout le monde se bouffe sur notre tête, viens, on trouve des accords. Toi, tu prends ce secteur, moi, je prends ce secteur. Non, mais c'est éclaté. Tu arrives à faire ça? Non, c'est pas à moi de le faire. C'est pas à moi de me rabaisser. Après, c'est un problème d'ego. Oui? Donc, le faire du shalom, c'est quoi? C'est que si toi, tu crois en Dieu, et que tu dis, tu vois, entre ce gars-là et moi, il y a quelque chose à faire. Tu crois en Dieu. Tu dis, entre moi et cette femme, il y a quelque chose à faire. Tu crois en Dieu. Tu dis, entre moi et cet enfant, il y a quelque chose à faire. Ah, pour l'instant, je comprends rien. Pour l'instant, c'est difficile. Pour l'instant, c'est embrouillé. Évidemment, c'est du recherche. Puisque le recherche, c'est la phase où les choses sont mélangées avant qu'elles deviennent organisées. Maintenant, qui c'est qui va les organiser? Osé shalom. Quand toi, tu vas aller vers l'autre, quand toi, tu vas aller vers le business, quand toi, tu vas aller vers la réalisation. Ok, tu as fait 10 ans de médecine. Alors, va travailler. Ouvre ton cabinet. Non, j'ose pas. C'est difficile. C'est beaucoup d'argent. Alors, pourquoi tu as fait 10 ans de médecine? Tu as fait 10 ans de shiva. Enseigne. Crée une yeshiva, fais quelque chose, écris un livre. Non, tu sais, c'est pas grave, je peux continuer à tourner les pages. Mais non, alors travaille dans la clim, comme ça tu fais des courants d'air. Confirmation, ouais, partez le en plus. C'est pour ça que Rav Dessler, il dit une chose incroyable. Il dit, oh, la lumière, je vous avais ramené ça dans un autre cours, Pirusho Gilouy. C'est quoi la lumière? C'est un dévoilement. Chez Mistalek à Rocher, Béa Esther, Milev à Adam, ou Mitgalé, les Libo à Karat Hashem Ibarra. Ça veut dire que le fait de voir, de percevoir Hashem dans une situation, de voir la Hashgacha, de voir le miracle, ça s'appelle le Or. Comme un accouchement par exemple. Celui, sa femme, elle a accouché. S'il n'a pas vu le miracle de l'accouchement, il a un vrai problème de Emouna. Il n'est pas normal, parce que c'est un miracle un accouchement. Celui qui a des enfants et qui voit comment ils courent, comment ils sautent, comment ils se bagarrent, comment ils tombent de l'escalier et qu'ils arrivent à 20 ans normaux, mais c'est, il ne voit pas le miracle, il ne voit pas le or. Maintenant lui il croit parce qu'il n'est pas croyant, lui il croit parce qu'il est pragmatique, parce qu'il est scientifique, mais non, il vit dans l'obscurité. Maintenant l'obscurité, elle peut être lumineuse. Vous croyez que les camps de la mort n'étaient pas éclairés? Pourtant il faisait noir dedans. Ça n'a rien à voir. Je crois qu'il y a des fois des gens qui sont souriants et qui veulent ta mort. Ça existe. Ça s'appelle des pervers narcissiques. Mais tu vois rien. Parce qu'ils sont gentils, ils sont attentionnés. En fait, ils t'étouffent. Ils veulent que tu meurs. Mais avec le sourire. Pas, ils vont te frapper. Pas du tout, pas du tout. Non, ils te poussent au suicide. Mais gentiment. Toi, tu vois de la lumière, c'est entièrement Rocher. Après, quelqu'un t'explique ou tu lis un livre. Et d'un seul coup, tu dis, oh, ça y est, mais j'ai compris. J'ai tout compris. Voilà, c'est ça son comportement, c'est ça sa volonté. Mais c'est tout pourri à l'intérieur. Et je crois que l'extérieur, c'est extraordinaire. Tu vois qu'est-ce qu'on a fait? On est passé, mina rocher, les or. Et mi or, les rocher. Donc quand tu réalises quelque chose qui n'est pas fini, ça s'appelle passer de l'obscurité à la lumière. Mais quand tu éclaires un événement et tu comprends ce qui se passe à l'intérieur, ça s'appelle passer de or au rocher. Mais il n'y a rien de négatif là-dedans. En français, ça s'appelle la maturité. Pourquoi? Parce que les gens matures, les gens adultes, les gens grands, les gens qui assument, ils vivent avec le or et le rocher. Ils savent que créer un business, c'est prendre des risques et c'est avoir mal au ventre. Ils savent que faire des enfants, c'est une responsabilité. Ils savent que donner sa parole, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que peut-être tu auras mal au ventre. Peut-être ça ne va pas être simple. Peut-être tu auras du mal à aller au bout. Mais tu sais comment s'appelle ce malaise-là d'arriver au bout? Ça s'appelle le rocher. Comment ça s'appelle la satisfaction d'avoir réussi à le faire? Ça s'appelle le or. Mais comment tu vas connaître l'or si tu ne connais pas le rocher? Donc en fait, la maturité, en fait, c'est d'accepter le rocher. Et c'est quoi l'immaturité? De repousser le rocher. De vivre dans l'eau. C'est pour ça qu'il dit, Mais c'est le Rav Dessler, hein, c'est pas moi. Il dit, Bema Amar Yehi Or. Donc quand Hachem il a dit que la lumière soit, c'est pas qu'il a créé la lumière. Ça, c'est la traduction. Il a dit, Nidgalta Behinat Agilui. Il a dévoilé le principe même du dévoilement. C'est-à-dire que le fait que les choses se dévoilent, le fait que Hachem il peut éclairer les choses, que le fait que les choses s'ouvrent, les choses se réalisent, c'est parce qu'Hachem il a dit Yehi Or. Sinon, le monde il serait resté au potentiel. Comme quelqu'un qui le voit, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Il finit son diplôme, il devient une autre personne. Il fait un an d'yeshiva, il devient une autre personne. Il se marie, il devient une autre personne. Elle accouche du premier bébé, elle devient une autre personne. Je dis, mais comment elle a pu devenir une autre personne? Elle était complexée, angoissée, petite, écrasée, t'es poire, au moins t'es grosse, t'es moche. Comment maintenant tu la vois épanouie, chef d'entreprise, initiative, volonté? Comment c'est possible? Yehi Or. C'est que le fait qu'une chose peut se dévoiler, cette caractéristique, elle est venue quand Hachem il a dit Yehi Or. Il nid galé à tochen. C'est quoi Yehi Or? Ça veut dire que l'intériorité des choses, elle se dévoile. D'ailleurs, en physique, je l'ai déjà expliqué 100 fois, mais je vous le répète, c'est quoi le feu? Est-ce que c'est le feu en physique? Non? Vous prenez une matière. Elle est faite, on a dit, de molécules, d'atomes. Ces atomes, en vérité, ils sont faits à 99% d'énergie. Maintenant, quand l'énergie est stable, elle n'est pas éclairante. Mais quand vous déstabilisez la structure énergétique de la matière, l'énergie qui est dans la matière se répand sous forme de chaleur et de lumière. Ça, c'est la définition physique du feu. Vous prenez un bout de bois et vous frottez, vous frottez, vous frottez, vous frottez, vous frottez. Pourquoi ça prend feu? C'est quoi qui prend feu? Les atomes, ça prend pas feu, les atomes. Non, c'est l'énergie qui est dedans. Vous la déstabilisez. Donc, elle se diffuse sous forme de chaleur et de lumière. Donc, en fait, le feu, c'est juste une transformation de l'énergie. D'accord? Maintenant, où il était ce feu? À l'intérieur. Comment il s'appelle le feu à l'intérieur? Il s'appelle Tochen. Comment il s'appelle le feu qui se dévoile? Il s'appelle Giloui. Maintenant, tu vois cet enfant-là, tu lui mets des mathématiques, tu mets de la physique, tu mets de la Mishnah, tu mets de la Gemara, ouais, et d'un seul coup, il te sort un raisonnement de feu. Mais quelle tête! Comment il a fait? On a ajusté les choses, et après, tac, il a frotté, il a sorti un ridouche. Tu prends la Gemara, tu prends ta tête, tu sors la question de Rabbi Akiva Eiger. Waouh, mais c'est du feu. C'est pour ça que le soir de Shavuot, on dit, le Beit Yosef, il est entouré de flammes. Mais ce n'est pas des flammes physiques, c'est le feu de la Torah. Pourquoi on l'appelle Esh HaTorah? Pourquoi? Parce que si vous savez que Hachem, il a créé le monde à partir de la Torah, et que le monde, il est fait d'énergie, et que cette énergie, c'est le Ratzon Hachem, donc quand vous déstabilisez, en fait, l'énergie de la matière, ça représente quand vous déstabilisez l'énergie de la Torah. Maintenant, l'énergie de la Torah, quand elle est déstabilisée, elle crée du feu. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est sorti de la caverne et qu'il a vu un gars qui était en train de labourer la terre au lieu d'étudier la Torah, il s'est enflammé. Il a pris feu. Tu dis, enfin, un corps humain ne peut pas prendre feu. Si, ça, cherchez sur Internet, ça s'appelle la combustion spontanée. Vous avez déjà entendu parler de ça? Eh bien, sortez un petit peu, toujours la yeshiva, ouvrez vos yeux. Orthodoxe. La combustion spontanée, c'est des gens qui prennent feu de l'intérieur. Il n'y a pas de gaz, il n'y a pas d'essence, il n'y a pas d'allumette. On retrouve un gars brûlé dans une pièce, mais il a brûlé de dedans.
Mais brûlé
physiquement.
Mais qui a brûlé?
Lui.
Chacun
sur Internet.
Oui.
C'est connu. Il y a une bonne histoire.
Qui a brûlé le rave?
Le monsieur. Non, pas le rave. Il n'y a pas de rave là-bas. Non, ou alors il était vraiment très âgé. On appelle un rave âgé. Alors, mais. Non, mais là-bas il y a des témoignages. Et attention, les témoignages, c'est pas Baha le truc, un alcoolique ou là. CHU de Rouen, les pompiers de tel endroit, ils sont arrivés. Il y avait un feu au plus milieu de la pièce. C'était un monsieur qui était allongé. Il y avait un feu qui sortait de son thorax. Et le gars, il a sorti le jet d'eau pour l'éteindre. Il n'arrivait pas à l'éteindre. C'est-à-dire que le feu était plus fort que l'eau. Écoutez, c'est troublant. C'est pas tellement troublant. Parce que la Gemara dans les Darim, elle dit qu'à la fin des temps, à Kadosh Baruch Hu, il va sortir le soleil. Ouais, et le Géinam, le feu, il va sortir des gens. Ouais, c'est pas tellement étonnant.
sta controllando.
D'accord. Et de vous à moi, de vous à moi.
Combustione spontanea.
Combustione spontanea.
Et de vous à moi, de vous à moi. La maladie qui travaille à l'intérieur et qui détruit la personne au fur et à mesure. Vous croyez pas que c'est un feu dévorant? Mais seulement, il n'est pas lumineux ce feu. Et quand tu le déstabilises, il fait de la lumière. Ben, c'est exactement pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire essayez, faites l'effort de sortir de vos a priori, de le feu et l'obscurité, le feu et l'eau et l'obscurité et la lumière. Ouais, sortez un peu. Ayez un autre regard, un regard halash. Vous allez voir. Parce que quand tu vois la colère de quelqu'un, en fait, tu vois le feu. Quand tu vois l'homme qui veut absolument fauter avec la secrétaire, tu vois le feu, mais c'est du feu. Le gars, il dit, ça brûle en moi. Ils appellent ça les feux de l'amour. C'est seulement nous, qu'on est tellement petit, on est tellement restreint, d'accord, qu'on imagine des flammes, et même l'enfer, tu crois que l'enfer, c'est des flammes et des chalumeaux. Mais non, le gars, par exemple, qui fait une phobie sur la haine de quelqu'un, il est en enfer. Celui qui n'arrive plus à dormir la nuit parce qu'il a été planté de 100 000 euros, il est en enfer. Celui qui ne sait pas où il est son fils, il est en enfer. Tu crois que l'enfer, c'est quoi après la mort? C'est normal. Ça veut dire que c'est quoi cette souffrance que tu as de ne pas savoir où il est ton fils? C'est quoi cette souffrance que tu as d'avoir l'impression que tu t'es fait rouler? Mais c'est une souffrance de recherche.
Pourquoi?
Parce que mis la recherche, je ne sais. Oh, le bon Dieu, il est en train de mettre quelque chose en place. Parce que toi, tu ne comprends pas, ça te fait souffrir. Mais qui t'a empêché de le comprendre? Et si tu ne peux pas le comprendre, qui t'a empêché de l'accepter? Tu dis non, tu ne veux pas. Alors reste dans le recherche. Mais ce n'est pas une punition, c'est un état d'être. Ça va? Pourquoi je suis venu?
Ça existe.
Oui. Non mais je mens rarement pendant les conférences. Je ne prends pas le risque, je ne suis pas Madame Le Pen de dire des choses qu'on peut vérifier facilement que c'est faux. C'est complètement idiot. Ça c'est vrai. Alors, maintenant si vous comprenez ça, alors il dit le Rav Dessler, il dit Nikol Makom, malgré qu'Hachem a donné Yehi Or, donc a donné cette qualité dans le monde que du dévoilement, il dit quand même Nikol Makom Adain Nishiret Behina Od Vechosher. Ça reste quand même, qui reste une notion de lumière et d'obscurité qui fonctionnent ensemble. Je traduis en français pour les gens qui ont quitté l'école trop tôt. C'est que cette logique-là, qu'il y a une extériorité qui contient de l'intériorité, d'accord? En fait, c'est le fond et la forme. C'est l'essentiel et le superficiel. Ça veut dire qu'en fait, vous avez compris que l'essentiel ne peut apparaître que quand on arrive à dépasser le superficiel. Donc on a besoin du superficiel. Donc la solution, elle ne peut être appréciée que chez celui qui a le problème. Quand il y a un problème, alors je suis content qu'il y ait une solution. La preuve, c'est que les enfants, on leur donne les solutions alors qu'ils n'ont pas subi les problèmes. Ils ne comprennent pas la valeur de la solution s'ils n'ont pas eu de problème. Ça va ou... Voilà. Donc, il ne peut pas avoir le or qui vient après le crochet, puisque nous, pour les préserver, on leur a évité le crochet, on leur a donné directement le or. Donc, ils ne comprennent pas la valeur de ce or-là. C'est pour ça qu'ils sont toujours or du coup. C'est pas grave. Alors, il dit, veille-nous, emet ve-sheker me-uravin. C'est ça, la vérité et le mensonge, ils sont mélangés. Alors, Vainu Shoresh Abichira Tova. C'est la seule manière pour Hachem de donner le libre arbitre à l'homme, c'est justement parce qu'il y a le bien et le mal. C'est pour ça que les placements à risque rapportent plus que les placements non risqués. Tu as un petit livret A. Ça existe le livret A. Oui, j'ai expliqué déjà pourquoi ça s'appelle livret A. Parce qu'à la fin de l'année, quand tu regardes les bénéfices, tu dis A. Au début, ça s'appelait livret Chlet. Chlet. Après, les gens, ils ont dit, ils vont se douter. Alors, il a appelé livret A. Parce que tu dis, attends, j'ai bloqué 42 000 euros, ils m'ont donné 63 euros. C'est pas possible. La banque, elle a pris au moins 200 000 sur ces 42 000. Et moi, je prends quoi? Je prends rien. C'est comme ça. Ça s'appelle livret A. Alors, tu dis, mais je comprends pas, je gagne pas assez d'argent. Le gars, il dit, si vous voulez, vous pouvez gagner plus. Mais c'est des placements à risque. De risque, ça veut dire que tu auras plus peur. Là, il n'y a pas de risque. Ouais, tu as la lumière depuis le début. Toi, tu dis, je préfère les risques. Si tu veux les risques, il y a des trop chers. Pendant 3 ans, c'est pas. Ça monte, ça descend, on ne sait pas. Et à la fin, tu prends le paquet. Tu prends 6% ou là, jusqu'à 11%, ce qu'on appelle Madoff. Tu peux arriver. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? Toi, tu crois que parce que tu as pris des risques, tu as gagné plus d'argent. Mais non, c'est parce que, tu vois, par exemple, c'est comme si tu dis, oh, je veux que mon enfant il suive un parcours qui est facile. Ah non, il n'y a pas tellement de surprises. Un parcours qui n'est pas facile. Non, c'est pas un parcours facile. Parce qu'il n'y a pas d'avenir, il n'y a rien. Tu ne sais pas ce que tu vas devenir. Mais quand ça marche, tu vois une lumière. Tu te dis, non, il va faire sa médecine, sa chrébé, son truc, son internat, et maintenant, grâce à Dieu, il est bien. Bon, il prend des cachets, mais il est bien. Ouais. Mais bon, il n'est pas 100% réalisé, mais il est bien. C'est-à-dire que le contraire, des fois, peut-être le collègue de main, il va être dépressif, et le médecin, il va être épanoui. Des fois, le contraire, le médecin, il est dépressif, et le collègue de main, il est épanoui. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés, mais ils ont recherché que les or. Maintenant, pour pouvoir trouver le or, il fallait qu'il y ait le crochet. Ça s'appelle or, mais recherche, mishtamshim beirbuvia. Ils sont vécus ensemble. Parce que toi, ça ne te dérange pas. Comme quand tu conduis, tu dis, tu sais qu'à chaque fois que tu conduis, tu peux faire un accident. Ok, mais c'est moi qui tiens le volant. Ah, ok. Alors, ça ne te dérange pas le crochet. Ouais, parce qu'il y a le or. Comme tu veux ou non. Ça s'appelle la maturité. C'est pareil, tu dis, mais attends, mais c'est ma femme, je vais aller, je vais m'arranger avec elle. C'est normal, tu dis, non, on se parle pas, je la comprends pas, elle est folle, de toute façon, j'aurais pas dû marier avec elle. Et puis, mon ex, elle est super, et maintenant, voilà, j'ai épousé une folle. Oh. En fait, tu sais ce que tu fais, tu maintiens le crochet. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de lumière. Parce que tu brûles le crochet pour atteindre la lumière. Donc, en fait, tu brûles les problèmes pour atteindre les solutions. Mais qui c'est qui brûle quand tu brûles? Ce qui brûle, c'est ce qui est mauvais encore. Tu brûles ton orgueil. Tu brûles ta bêtise, tu brûles ton manque de confiance, tu brûles ton manque de bitachon. Et bien c'est bizarre que quand tu as déstabilisé le rocher, ça devient du or. Et quand tu déstabilises la matière, ça devient de la lumière. Et bien quand tu déstabilises ce qui est mauvais en toi, ça devient bien. C'est que la seule manière de devenir bien, c'est de tuer le nul qui est en toi. Et si tu dis le nul, j'aime bien. J'aime bien, mon psy m'a dit que c'est normal, ma mère elle m'adore comme je suis, et moi je demande à tout le monde de m'aimer comme je suis. Donc je vais rester nul. Grâce à Dieu, je reste nul. Mais bizarrement, je ne suis pas bien. Alors soit je m'enfuis dans la religion, soit je prends des vitamines illégales, soit je me tue dans le travail pour oublier que j'ai rien fait de ma vie. Tu ne pourrais pas simplement t'épanouir? C'est marqué ici. Donc encore une fois, or et rocher, ils sont obligatoires. Maintenant, mais le but, c'est de passer au or. Le problème, c'est que tu ne pourras trouver la lumière que parce que tu as dépassé le crochet. Maintenant, le crochet s'appelle le mal au ventre, d'accord? Et la lumière s'appelle d'avoir des abdominaux. Mais tu sais pourquoi tu as fait des abdominaux? Parce que tu as eu mal au ventre. Mais pourquoi tu as cette belle maison? Et parce que tu travaillais pendant 20 ans. Tu n'es pas un voleur, tu as travaillé 20 ans. 20 ans, tu as une belle maison, c'est normal. Tu travailles, tu prends des risques, tu cours. Tu as une belle maison. Une fois, j'ai demandé à un rabbin, j'ai dit, ah, j'ai honte, voilà, j'ai décidé d'acheter la maison. Il m'a dit, ah ben, à Taouben, tu m'as dit, tu travailles? Je dis oui. Il m'a dit, alors, t'achètes une maison, qu'est-ce qu'il y a? Tu as compris ou non? Si tu fais rien, elle te tombe la maison, tu dis là, il y a un bout d'Olamaba. Marque en haut, ouais, Olamaba. Mais si tu travailles, tu te fais, c'est normal. Si tu as des beaux enfants, des enfants bien, tu ne peux pas dire, là, mais tu as travaillé pour qu'ils soient bien? Oui, ben, c'est normal. Si tu n'as rien fait, ils sortent des génies. Il va venir la Nara, c'est normal. Pourquoi? Qu'est-ce que tu mérites, quoi? Toi, un vrai, une Hamara, les deux, ils ont un génie. D'où? C'est une erreur. Alors, on va rétablir ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, toi, tu crois que Rocher, c'est mauvais. Mais non, Rocher, c'est le travail. Et or, c'est le résultat. Donc, c'est bien. Maintenant, les enfants, ils n'aiment pas le travail. Jusqu'à l'âge de 62 ans, à peu près. D'accord? C'est pour ça qu'ils aiment l'obscurité. Alors que le contraire, il ne faut pas avoir peur, vas-y, allume la lumière. Allez, viens, on pose les choses, viens, on dit qu'est-ce qu'on ressent, viens, on sort les problèmes, viens, on trouve des solutions, viens, on casse et on recommence, viens. Mais allez, allume la lumière, allez, allume la lumière. C'est pas facile. Ouais? Donc ici, c'est marqué. Normalement, dans Brachot d'Av Samer. Tano Rabbanan. Ma'asé be'ilel azake. On va déjà, c'est pas possible. Elle marche pas, je pense. Hein. Elle va plus vite que le temps. C'est 7h15.
On a le temps.
8h, 9h,
on a
le temps. On a le temps.
De toute façon, je n'ai pas oublié, il n'y a plus d'avis. D'accord. Ma'asé be'ilé la zaken. Écoutez cette gemara, elle est incroyable, ça vaut le coup de l'écouter avant de mourir. Ma'asé be'ilé la zaken. Il y a une histoire avec Hillel, Azaken, l'ancien. Shayaba Baderer, c'est une gemara connue. Je sais, vous la connaissez, moi aussi je la connais, je l'ai déjà étudiée, moi aussi. Mais ne dites pas, bon, je la connais, je vais dormir un peu. Non, parce qu'il y a un nouvel éclairage. Shaya Baba Derech, il est venu sur le chemin. Feshamat Zvacha Ba'ir. Donc maintenant, il est à Zaken, il était en dehors de la ville. Il rentre chez lui à la maison. En arrivant à l'entrée du village, il entend un cri. Ah ! Un cri horrible. Un cri horrible. Genre la femme, elle a découvert qu'elle a fait un kilo. C'est-à-dire une catastrophe. D'accord. Il dit Amar, il a dit, à l'entrée de la ville, en entendant le cri, il a dit Mouftar Ani chez Enze Betorbeti. Mouftar Ani, je suis sûr que ça n'est pas dans ma maison. Et voilà, de qui c'est. Statistiquement, il y a un cri. Et c'est ton village. Il y a 100 maisons. Sur les 100 maisons, il y en a une, c'est la tienne. Comment tu peux être sûr que c'est pas toi?
Il n'est pas marié.
Hein? Non, il a une femme. Il a une femme mince. Alors, regardez ce qu'il dit. Restez concentrés, en un seul mot. Alors, il dit la Gemara, vers Allah, va qu'à tout vos mères. Et celui, sur lui, il dit le pasouk, Mishmoa ra'a lo'ira. Mishmoa ra'a, d'une mauvaise nouvelle, il n'a pas peur. Ouais, il ne craindra pas. Pourquoi? Nachon libo batu arbachet. Nachon libo, son cœur est bien, il est correct. Ouais. Batu arbachet, il a confiance en Dieu. Alors je rappelle pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion de bien apprendre. Nachon en hébreu, ça veut dire quoi Nachon?
Juste.
Correct. Nachon, la racine, en fait, il faut enlever le noun, ouais, c'est chaf, vav, noun. Chaf, vav, noun, c'est kivoun. Mechouvan. Quelque chose qui est nachon, c'est quelque chose qui est mechouvan. D'accord? C'est quoi quelque chose qui est vrai? C'est quelque chose qui rentre dans une. Enfin, comment tu sais que c'est droit? Parce que tu prends la règle et c'est comme la règle. D'accord? Alors c'est pareil. Maintenant, quelque chose qui est mechouvan. C'est quelque chose qui est nachon. Par exemple, tu dis 2 plus 2 égale 4, j'ai dit oui, 2 plus 2 égale 4. Si cette maison est à moi, j'ai dit nachon, zéchelcha. Tu dis la vie, ça se passe comme ça, tu dis nachon, c'est comme ça. Alors pourquoi tu dis c'est comme ça? Parce que tu as une référence que c'est comme ça. Donc nachon, c'est toujours mechouval. Mechouval, c'est kavana. Kavana, c'est quoi? C'est la direction. Ouais, c'est aussi l'intention. En hébreu, kivoun, ça veut dire la direction, et kavana, ça veut dire l'intention. Maintenant, comment ça se fait que le même mot, la même racine, elle a deux sens différents? Parce que le kivoun, c'est la direction, tu vas baiser kivoun à ta olef, et la kavana, c'est l'interprétation, c'est la compréhension. Ma kavana baiser. Alors, quel rapport? Alors, en français, c'est pareil. En français, le mot sens, il veut dire sens, il veut dire sens. Maintenant, le sens que tu vas, le sens de l'orientation, d'accord? C'est la direction. Mais le sens, c'est aussi la signification. Ça va? Maintenant, je donne le secret. Pour que ta vie ait un sens, il faut que tu puisses donner un sens à chacun de tes actes. Maintenant, ta vie, c'est quoi? Ta vie, c'est une série d'actes. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui fait que ta vie entière, elle prend un sens? Parce que chaque acte, il rentre dans le sens de ta vie. Maintenant, qu'est-ce qui donne un sens à ta vie? C'est-à-dire, qu'est-ce qui donne une signification à ta vie? La signification que tu donnes à tes actes. Donc, c'est comme si sur une droite qui fait 1000 km, on va mettre des vecteurs de droite, on va mettre des morceaux de droite. Maintenant, comment on sait que les morceaux de droite, ils sont exactement dans l'axe de la droite? Parce qu'ils ont le même kivoun. Maintenant, qu'est-ce qui maintient le segment de droite dans la droite? C'est la kavana. D'accord? Toi, t'es marié, colacavole. Sache que marier, c'est facile. Mais rester marié, c'est pas facile. Donc, pour rester marié, tu dois penser, j'aime ma femme, elle est extraordinaire, mon mari, c'est le père de mes enfants, on est là pour construire, on va réussir, on garde le dialogue, on maintient le dialogue. Ça, c'est la kavana. C'est la kavana qui fait que ton mariage, il est mechouval, ouais, et qu'on voit que c'est nahon. Mais si tu travailles plus ton couple, tu travailles pas la communication, tu travailles pas la solidarité, au bout d'un moment, vous voyez que vous êtes plus sur le même axe. On n'a plus les mêmes visions des choses. on appelle la madame proche, ah, toi tu as trop avancé dans la religion, toi tu t'es trop mis dans la matérialité, toi tu penses qu'à bouffer, toi tu penses qu'à l'argent. Alors on a perdu le kivoun, on n'a pas le même kivoun. Les amis, vous savez, on n'a plus grand chose en commun, donc on n'est plus en communion, et on n'arrive plus à communiquer. D'ailleurs, on ne se touche même plus. On n'est même pas attiré l'un vers l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois comment le vecteur, il a quitté la droite. Le problème, c'est que la droite, c'est une notion virtuelle. Et le vecteur, c'est une notion réelle. Vous savez, le maçon, quand il monte le mur, la première chose qu'il fait,
il met un fil.
Après, il met une brique après l'autre. Il dit, j'ai pas la peine. Pourquoi j'ai besoin de mettre un fil? De toute façon, le premier parpaing, je le mets bien droit. Le deuxième parpaing, je le mets exactement à la suite du premier. Le troisième, la suite. Le quatrième, la suite. Et bien, bizarrement, tu arrives à la fin, le mur, il est comme ça. Mais quand est-ce que ça a tourné? C'est pareil. Toi, tu dis, l'enfant, je ne comprends pas cet enfant, je vais donner la même éducation que le grand. Mais ce n'est pas le même. Ça ne marche pas. Il faut que tu aies un fil. Maintenant, nous, on a un fil. Ça fait 3500 ans qu'il est tiré. Ça s'appelle le fil de la Torah. D'accord? Moi, je parle. Je parle, mais j'ai le fil de ma pensée. Vous me suivez ou non? Vous avez le fil de votre volonté de comprendre. Si vous détachez le fil, vous pensez à autre chose, vous dites, tiens, en fait, j'ai pas garé la voiture. Ah, qui c'est qui est passé, Le Pen ou Macron? Vous perdez le fil du raisonnement. C'est fini. Après, vous dites, je comprends rien à ce qu'il dit. C'est pas cohérent. Ça marche pas avec ce qu'il a dit tout à l'heure. Mais t'as sauté une étape, toi. T'as pas tout écouté. T'as compris cette logique-là? Ça veut dire qu'il ne faut jamais couper le fil. Ça s'appelle le GPS. Il ne faut jamais perdre le signal d'Hachem. C'est pour ça que même aux toilettes, tu peux penser à Hachem si tu risques de perdre la dévote. Même à 10 000 km, tu penses à ta femme quand tu rentres dans un bar. Oui. Même quand le Chinois il te propose une embrouille, tu penses au Shulchan Aruch. Sinon, tu coupes le fil. Après, c'est pour ça qu'on dit Imalev Nahon Adeot Nechonot. Si le cœur est correct, les pensées sont droites. D'accord? Ben, qu'est-ce qui est marqué ici? Il a dit Ve Nahon Libo. Donc, vous avez compris que le cœur, ici, ce n'est pas les sentiments. C'est que la personne, dans son intériorité, elle ne bouge pas. Tu vois, le gars qui est droit, ce n'est pas quelqu'un qui est né droit. C'est même pas quelqu'un qui est droit, c'est quelqu'un qui se maintient droit. C'est pas évident de rester droit. Parce qu'il y a des tentations, il y a des embrouilles, il y a des tralouettes, il y a des non-dits, il y a des facturations bizarres. Tu dis Yachar, c'est Yachar. Comme disait un Moël, Mila, c'est Mila. C'est pas grave. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, vous êtes tellement sérieux. Donc c'est quoi l'idée? C'est marqué ici. Mishmoa Ra'a. Ouais, d'une mauvaise nouvelle, l'Oira, il n'a pas peur. Pourquoi? Nachon libo boter bachem. Donc déjà tu vois que celui qui est boter bachem, il est nachon libo. Donc on ne parle pas d'un boter bachem qui comprend rien, qui ment, qui triche et qui embrouille, mais qui dit Dieu est grand, Dieu est grand. Non. Boter bachem, mais nachon libo. D'accord? C'est-à-dire on ne peut pas être un chassid hébreu. On ne peut pas avoir une rachamaïm et être débile. On ne peut pas. On ne peut pas être, croire en Dieu et ne pas être normal. Non. Il faut Nahon Libo Boter Bachem. Les deux. Il faut Alev Mechouvan, Vehabitachon ou Banoui. On ne veut pas Bitachon, Banoui. Comme tout à l'heure dans la voiture, quelqu'un m'a téléphoné, m'a dit écoutez, Rabbi Chetri, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi se faire ce souci? Non. Je t'écoute, tout ce que tu dis, c'est un langage de Bitachon extraordinaire. Si Béhémé, tu penses comme ça, vas-y. Mais sinon, fais attention. Parce qu'il va t'arriver, le bon Dieu, il va t'expliquer. Ou si tu veux, non? Tu veux partir pour faire l'Everest, tu vas chez le magasin, tu achètes des cordages, des trucs. Le gars, il te dit, écoutez, vous achetez, mais vous ne regardez pas la solidité. Oh, moi, je regarde le prix. Je vois un cordage à 6 euros, un cordage à 63 euros. Je ne suis pas fou, je ne vais pas payer 10 fois le prix. Mais monsieur, ce cordage, il va vous tenir en l'air. Vous êtes accroché à la montagne, à 600 mètres. Si le cordage, il est pourri, ce n'est pas les 6 euros que vous allez regretter. Mais qu'est-ce que c'est le cordage? Tes valeurs, tes pensées, ton éducation, tes principes, ta Torah, tes rabbinim. C'est solide, non? Qu'est-ce que t'as pris comme cordage? Des trucs pourris. Il faut que ça tienne. C'est pas évident, hein? Et on a des en sol. Mais tu veux du solide. Bah, vérifie avant, tire dessus, tiens, si ça tient. Si ça craque, c'est pourri, puis tu es en train de. Tu vas t'investir, tu vas mettre ta vie sur des cordages pourris. Prends des cordages solides. Donc il faut Irak Shamaï, il faut les midotes, il faut la patience, il faut la perpétuité, il faut les valeurs, il faut la sensibilité, il faut la solidarité. Si tu vois pas tout ça chez la personne, n'achète pas ce cordage, t'écoute, hein. Il va craquer en plein milieu. Après tu dis, ah, je m'attendais pas du tout, je suis très déçu. Mais tu savais très bien, tu l'as senti, mais tu as fait le compromis. Eh bien le compromis, il craque, puisqu'on te l'a promis. Ici c'est marqué dans la Gemara incroyable. Amar Rava, il a dit Rava sur cette Gemara là. Ce pasouk là, tu peux l'apprendre des deux côtés. Il dit pourquoi? Mereshal et Sefer, je vous résume. Mishmoara lo ira. D'une mauvaise nouvelle, il ne craindra pas. Pourquoi? Pourquoi il ne craindra pas une mauvaise nouvelle? Il dit Nachon ibo botak bashem. Parce qu'il a le cœur correct, il croit en Dieu. Le contraire aussi. Nachon ibo botak bashem. Ouais. Celui qui a le cœur correct et qui croit en Dieu. Il a confiance en Dieu. Mishmoara lo ira. Il n'aura pas peur d'une mauvaise nouvelle. Alors, tu dis, mais je comprends pas. C'est la même chose que la Gemara se casse la tête. Je dis le verset, tu peux le lire comme ouais, blanc bonnet, bonnet blanc. La poule, les œufs, la poule. Ben, ça sert à rien. Alors, le Rav Dessler, il amène le Chidusha Rajba. Ouais, très religieux. Chez Mevi, Bechem Araïbe. Lui aussi, très religieux. Il n'y a que des rabbins. Il dit en vérité. Écoutez bien ce qu'il dit. Mais c'est un peu violent. Mais comme on sait tous et que tout va bien et qu'on est heureux, grâce à Dieu, c'est pas chez vous qu'on vote, c'est chez nous. Donc vous êtes tranquille. Vous avez Mathéo, donc ça va, mais nous, on a Mathéba. Non, il est en train de revenir, il revient. Il dit, écoutez bien.
C'est tout.
Écoutez bien ce qu'il dit. Chez Kevan, chez Libo, Nachon, Boter, Bachem, Vadaï, Hachem, Idvara, Loya, Selo, Ra'a. Je ne sais pas si vous me suivez. Parce que vous croyez en Dieu, non? Oui, tout le monde croit en Dieu. Vous croyez tous en Dieu? Voilà. Quand il t'arrive du mal, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, c'est très dur, hein? Mais Baruch HaShem, Ani Boter HaShem. J'ai confiance en Dieu. Donc, je vais pouvoir assumer ce mal-là. D'accord. Après, tu peux te poser la question. Mais puisque de toute façon, j'ai confiance en Dieu, qu'est-ce qu'il avait besoin de m'envoyer l'épreuve? Donc, il y a deux lectures. Ou la confiance en Dieu, elle va faire que quand tu auras l'épreuve, tu seras capable de l'assumer. Ou la confiance en Dieu, elle va faire que tu n'as même pas besoin de l'épreuve. Pourquoi je vais te mettre à l'épreuve, puisque tu es bon? Le gars qui vient de réussir l'examen de rentrée en médecine, est-ce que je lui refais passer le bac? Le gars qui vient de terminer l'examen de polytechnique, meilleur de la promotion, est-ce que je lui demande de passer le bac? Je ne demande pas si c'est passé le bac, il a déjà. Le bac, c'est rien pour lui. Il vient de finir Polytechnique. Je ne demande pas le bac. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est que l'épreuve, c'est vrai, d'un côté, elle te met à l'épreuve. Mais d'un autre côté, elle te montre aussi c'est quoi ton niveau. Parce que pourquoi je vais te mettre à l'épreuve sur une chose qui est évidente pour toi? Si je te mets une épreuve dans la cache-route, c'est que tu as un problème de cache-route. Si je te mets une épreuve dans la snéoute, c'est que tu as un problème avec la snéoute. Si je te mets une épreuve avec le décolleté de la voisine, c'est que tu as un problème avec le décolleté. Si je te mets une épreuve avec l'argent, c'est que tu as un problème avec l'argent. Parce que pourquoi je vais t'éprouver sur une chose que tu as réglée? Et là-bas, tu ne l'as pas réglée. Ouais. Maintenant, le fait de l'assumer, ça va faire que tu vas le régler. Maintenant, toi, peut-être, tu disais, mais moi, j'ai fini avec ça, mais c'est terminé. Tu crois que j'ai besoin de ces problèmes-là? J'ai rien, c'est rien. Moi, j'ai fini ça. Ah bon, alors pourquoi on te met l'épreuve dessus? Donc, ce qui est marqué ici, puisque toi, tu es confiant, d'accord? Puisque toi, tu es boter Hachem, parce que tu es à 100% avec Hachem, tu es avec Hachem, tu vois Hachem, tu as confiance dans Hachem, tu es bien avec Hachem, oui? Même quand elle arrive l'épreuve, tu n'as pas peur. Exactement pareil si tu dois traverser un ravin. Il y a un ravin. Et ce ravin, il fait 800 mètres de profondeur. Tu le vois, il est profond. Et tu dis, j'ai pas envie de passer. J'ai pas envie. En plus, le seul endroit pour passer, c'est une poutre. Qui fait 10 cm de largeur. Alors on te dit, passe sur la poutre. Tu dis, je peux pas, j'ai pas d'équilibre. Je peux pas le faire. Ok. Maintenant en face de toi, il y a un gars qui te dit, passe, et toi tu dis, j'ai pas envie. Ok. Maintenant, de peau, il y a 64 léopards qui arrivent. affamés qui n'ont pas mangé depuis 8 ans. Un yaourt par mois. Tu vois les 68 léopards qui sont là, et tu vois le ravin. Et là, il y a la poutre. Et toi, tu dis, pourquoi il ne m'a pas fait un pont avec 4 voies d'un côté et 4 voies de l'autre? Pourquoi il ne m'a pas fait un ascenseur? Pourquoi il ne m'a pas fait un tapis roulant? Non, une poutre avec le vide et le vide. Et un gars qui est en face de toi, tu dis, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tu as confiance en moi ou tu n'as pas confiance en moi? Je suis le spécialiste de traverser dans le vide. J'ai traversé 1 million de fois le vide. Je te dis, traverse. Toi, tu dis, mais j'ai peur. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Je vais avancer et à bout d'un moment, je vais regarder vers le bas. Pourquoi je ne regarde jamais le vide? Je regarde jamais le vide. Parce que tu vas être déséquilibré. Par contre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu regardes les gars dans les yeux et tu avances. D'accord? Maintenant, moi, je vous pose une question idiote.
Ouais.
Si vous êtes dans une belle avenue, une belle avenue, une avenue, un boulevard.
Une belle strada.
Ouais, strada. Et le trottoir, il fait 6 mètres de large. Le trottoir. Ouais. Donc vous êtes loin de les voitures. Alors maintenant vous êtes là au milieu. Donc il y a 3 mètres de trottoir. Je dis, tu sais quoi? Essaye de marcher avec les yeux fermés. Moi je faisais ça quand j'avais 15 ans. Je disais, je vais essayer de marcher jusqu'au poteau là-bas avec les yeux fermés. Pour voir si je marche droit. Je fermais les yeux comme ça, je marchais. Alors toi, tu te dis, bah, de toute façon, je vais toujours les pieds à la même distance, d'accord? Mais et après, tu vois, c'est à 2 mètres. Tu crois que tu marches droit? Tu marches pas.
Tu marches quoi?
Tu marches pas. Alors maintenant, toi, maintenant, si toi, tu marches au milieu d'un trottoir de 5 mètres, tu as peur? Non. Tu marches au milieu d'une poutre de 10 cm, tu as peur? Oui. Mais de toi à moi, si on refait exactement la trajectoire par laquelle tu es passé sur le trottoir, au fond, tu as marché sur 10 cm. Quand tu marches sur un trottoir, tu marches sur 10 cm, puisque tu mets un pied devant l'autre. Donc chaque pied, il est devant l'autre. Donc en fait, tu marches sur 10 cm. Mais si à 5 mètres, tu es à l'aise, si à 10 cm, tu t'as peur. Ça va?
Parce que mes erreurs n'est pas
prêtes. Vous avez compris ou non? Maintenant, pourquoi quand tu as confiance dans la personne, ça devient un trottoir de 5 mètres, et quand tu n'as pas confiance, ça devient une poutre de 10 cm. Donc quand tes parents t'ont donné la confiance, ils te disent, mon fils, je crois en toi, je sais que t'es un enfant bien, tu vas réussir, moi je crois en toi, je crois, je suis sûr, je suis bien, tu marches sur un trottoir de 5 mètres. Si tes parents t'ont dit, t'es bête, t'es idiot, tu comprends rien, t'es armade, t'es comme la famille de ta mère, tous des fous, des voleurs et des tricheurs, en fait, tu lui as appris à marcher sur une poutre de 10 cm. Alors il fait tout le temps comme ça. Et en plus, plus il trébuche, plus tu l'engueules. Donc il n'a aucune confiance en lui. Mais qui c'est qui lui a dit que la poutre elle fait 10 cm? C'est toi. Parce que toujours, c'est pas facile, on s'en sortira pas, tu crois que c'est simple, hein? Où il était Dieu quand j'ai eu besoin de lui? C'est toi qui lui a rendu la poutre de 10 cm. Mais si lui, il a confiance en lui, lui il est bien dans sa tête et bien dans sa peau. Moi toujours, j'adorais regarder les Jeux Olympiques, les gymnastes. Vous avez vu ce qu'un gars il arrive à faire sur une poutre? Vous avez vu ce qu'ils font? Mais quand ils font des super lourds, des trucs comme ça. Triple saut arrière. C'est extraordinaire, non? Ouais. Mais tu crois que lui, il est en train de marcher sur une poutre? Pas du tout. Pas du tout. Il est tellement à l'aise, il est tellement entraîné, c'est plus une poutre. Alors quelle différence entre celui-là, il est en train de faire un double saut arrière sur une poutre, et lui, il est en train de racheter 32 sociétés. Il vient, il rentre chez l'avocat, il dit bonjour, comment ça se passe? Donc il a vu les audits, il a vu les calculs, il dit celle-là je l'achète avec celle-là je la mets au nom de celui-là, là je fais comme ça. Tu dis oh, attends, moi j'arrive même pas à tenir une épicerie, comment tu fais pour acheter 32 sociétés? C'est une question d'expérience, une question d'assise mentale, une question de confiance. Le gars il a acheté 3. Le jour je parle avec un ami à moi, lui il a 350 sociétés. Il est dans le board de 350 sociétés. D'accord? 350, c'est-à-dire je ne sais même pas comment il se rappelle les noms. Ouais. Et le gars, il travaille. À part ça, il étudie la moitié de la journée. D'accord? Eh ben, je lui dis, mais tu dors la nuit? Il m'a dit, pourquoi? Je mets juste l'énergie qu'il faut. Mais il y a beaucoup, à 19 ans, il était déjà le premier entrepreneur d'Internet. D'accord ? À 45 ans, il passe dans Capital, c'est vrai. Celui-là, imaginez-vous qu'il étudie à Bnei Brak. Et quand Manuel Valls, il est venu en Israël en visite Premier ministre, le gouvernement et tout ça, ils l'ont appelé parce qu'il est connu, celui-là, dans l'entrepreneur. Ouais, ils ont dit, écoutez, le Premier ministre de France, vous êtes français, le Premier ministre de France, il vient. Alors, on voudrait que vous veniez faire partie de la délégation d'accueil, parce qu'il va promouvoir le business, la Silicon Valley israélienne avec la France et tout ça. On veut que vous veniez parce que vous êtes très bien pensé dans toute la high-tech. C'est ce qu'il a dit, le gars. Il a dit, je peux pas, j'étudie le matin. Il a dit, c'est à quelle heure? Il a dit, 10h. Il a dit, je peux pas, j'étudie le matin. Il a dit, mais vous êtes fou. Le Premier ministre, il a dit, moi, j'ai rendez-vous avec le roi des rois. Vous parlez du Premier ministre. Il faut le faire, quand même.
Non, mais ça va.
T'as compris? Le gars, il est tous les matins avec sa Guémara. Tu touches pas sa Guémara. Il y a 1 000 000 d'euros, il y a 3 000 000 d'euros, tu bouges pas. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il veut. Mais alors pourquoi toi tu trembles de créer une société et l'autre il gère 300? Tu sais pourquoi? Parce que lui, il voit un trottoir de 5 mètres de large. Mais toi, qu'est-ce que tu vois? Tu vois pourquoi? Tu vois une toute petite poutre. Pourquoi? Parce que tout le reste c'est du vide. Mais tu dis, il n'y a pas de vide. Là, il y a HM, 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 là, il y a HM. Comme si ton père, écoute mon fils, je suis là. Tu veux faire quelque chose, je suis avec toi. N'aie pas peur. L'enfant, il va se lancer. Peut-être tu ne vas jamais l'aider, peut-être tu ne vas jamais lui donner, peut-être tu n'auras pas besoin de ton argent. Mais il sait qu'il peut compter sur toi. Alors si déjà, c'est Kalvahamor, si déjà l'enfant, quand il sait qu'il peut compter sur toi, il arrive à créer son business, alors toi, quand tu peux compter sur HM, tu ne peux pas vivre. Maintenant après, c'est une question de niveau. Si tu as déjà atteint cette assurance-là dans le bitachon, on n'a pas besoin de te mettre à l'épreuve pour mesurer ton bitachon, puisque de toute façon, tu as déjà le bitachon. Donc, tu veux ou non? Comme des femmes qui me disent, oui, ma rabbin, j'ai pris, moi, mon mari, je veux pas qu'il sorte, ce truc, je veux pas qu'il soit, je veux pas qu'il soit. J'ai entendu, madame, vous n'avez pas confiance en lui ou vous n'avez pas confiance en vous? Vous n'avez pas confiance qu'il regarde les gens, qu'il regarde les femmes, ou vous n'avez pas confiance que vous êtes moche? Parce que, de toute façon, s'il veut faire des Averroes, votre mari, même s'il est marié avec Miss France, il les fera des Averroes. Et s'il ne veut pas faire la demande, même s'il a la plus grande épreuve, il n'a pas peur. Oui, mais l'homme est faible. Non, l'homme n'est pas faible, c'est vous qui avez peur. Je dis maintenant, vous êtes obligé d'avoir confiance dans votre mari, vous êtes obligé d'avoir confiance dans votre femme, vous êtes obligé d'avoir confiance dans vos enfants, donc vous êtes obligé. Mais c'est quoi la confiance? La confiance, c'est marcher sur un boulevard et faire marcher l'autre sur un boulevard. C'est quoi le manque de confiance? C'est la peur du vide. Et c'est quoi le vide? Randon Polo, cousin de Marco Polo, prochain. On recommence. Vous avez compris ou non? C'est ça le vide. C'est quoi la sensation du vide? Mais quel vide de quoi? Puisque le monde, il est plein de Dieu. La Hachem a arrêté son gloire. Ouais? Baruch Hachem Mimekomo. Malekola arrête Kevodo. Alors, où est le vide? Donc, c'est ça ton problème. Ton problème, c'est que tu as créé des endroits où Dieu n'est pas là. On dit peut-être que Dieu n'est pas dans la Parnassa. D'accord. Alors peut-être que Dieu il n'est pas dans l'accouchement. Alors peut-être que Dieu il n'est pas dans la maladie. Alors peut-être que Dieu il n'est pas dans cet endroit-là. Alors peut-être que Dieu il n'est pas dans la vie. Alors peut-être que Dieu il n'est pas dans la mort. Alors puisque tous les endroits où Dieu n'est pas là, tu as créé le vide. Et ce vide-là, c'est ça qui crée la peur. En vérité, c'est quoi la peur? La peur, c'est le vide de Dieu. Maintenant, quand tu es petit, tes parents ils représentent Dieu. Quand tu es grand, ouais, tu n'as plus besoin de tes parents parce que le père, à quoi ça sert? Vous savez qu'est-ce qu'on dit? On dit pendant le temps où tu côtoies tes parents physiques, tu fabriques les parents psychologiques. Tout le temps, tu vois, comme tu es comme ça, tu as ton père et ta mère. D'accord? Donc ton père, il te donne des encouragements, des reproches, des trucs. Et ta mère, elle te donne des encouragements, des reproches. En réalité, qu'est-ce que tu fais? Pendant qu'ils sont physiquement là, tu fabriques le père psychologique et la mère psychologique. Le jour à 120 ans où ils quittent ce monde, oui. Toi, tu n'es pas en déséquilibre, parce que tu as fabriqué pendant ce temps-là. Mais les gens qui se sont appuyés sur les parents physiques, le jour où les parents physiques s'en vont, ils n'ont pas fabriqué les parents psychologiques, ils sont perdus. Tu vois, les gens, ils tombent en dépression, et je ne pourrai jamais m'en sortir, et j'ai besoin de lui, et je suis en rébellion, et pourquoi elle m'a laissé tomber? Et elle m'a abandonné. Elle ne t'a pas abandonné, tu as 72 ans, qu'elle t'a abandonné. Donc c'est quoi la logique? C'est qu'on profite de la présence physique pour fabriquer des parents psychologiques. Ouais. Et donc on profite de la pratique journalière des mitzvot pour fabriquer Dieu en nous.
C'est ça le problème.
Donc c'est pas de la culture, c'est pas de l'ambiance, c'est pas du folklore, c'est pas des rites et la ada. J'avais dit ça, je sens bien oublié. Vous savez, avant le kratchema, on doit être mitkabel, d'être mekabel ol machut shamayim. Vous savez ça. Avant de faire le kratchema, on doit penser, je fais la mitzvah de recevoir le jour divin. D'accord ? Alors je pose la question. Le gars, chaque fois qu'il fait le kratchema, il pense à la mitzvah de recevoir le jour divin. Oui, mais il ne reçoit pas le jour divin. Il pense qu'il doit recevoir le jour divin. C'est comme si toi tu penses, tu dis, tiens, en fait, il faudrait que je dépose l'argent là-bas. Mais tu n'y vas pas. Mais je vois, j'y ai pensé. Je te promets, j'y ai pensé. C'est dommage. Mais je n'ai pas été. Eh bien, comme tu n'as pas été acheter le billet de l'auto, tu n'as pas gagné. Mais j'y ai pensé. Mais tu ne l'as pas acheté. C'est comme si quand t'es au travail, tu penses, j'ai une femme extraordinaire, j'ai une femme extraordinaire. Après, tu rentres, tu fais la gueule. Non, ne pense pas rentre et dis que tu n'es pas extraordinaire. Quand tu veux, non. Ça veut dire que toi, tu es Mekabel Ol Malchut Shamayim ou tu penses à être Mekabel Ol Malchut Shamayim. Toi, tu mets des téfilines ou tu les déplaces géographiquement de leur pochette sur ton bras. Et quand tu penses, je mets Shabed, le bouffe et le moir à Kadosh Baruch Hu, tu le fais ? Vraiment ? Tu prends sur toi, tu dis maintenant, mon corps il est soumis à Hachem, tu fais ça ? Alors après, quand je dis, lève-toi pour la Hazara de la Mida. Je suis fatigué. Et c'est pas obligatoire. Bien sûr que c'est pas obligatoire. Mais je crois que ton corps il était soumis à Dieu maintenant. Après, tu dis, mais c'est pas caché, pourquoi tu manges ? J'ai faim. Alors, j'ai faim. Et si on était dans le désert, on n'aurait pas mangé. Alors, tant que tu n'as pas soumis ton estomac à Dieu, toi. Et tes yeux, tu ne les as pas soumis à Dieu. Alors, donc, depuis que tu es né, tu n'as jamais fait le kratchema. Mais si, j'ai fait le schéma. Mais j'ai pas pris le jour divin. Mais le principal du kratchema, c'est la Kabbalah de Malchut Shamayim. Mais la Kabbalah de Malchut, c'est pas de penser à prendre le jour divin. C'est de prendre le jour divin. Vous me suivez ou non ? Si vous allez dire, bon, mais tout ça, c'est de la religion.
Job.
Non, mais c'est pas de la religion ça. Parce que tu sais, quand tu te maries, c'est pas que tu t'es marié, c'est que tu as pris le jour du mariage. Maintenant, si toi tu dis, je la supporte pas, elle m'énerve, elle est grosse, mon mari est belle, il est idiot, donc tu n'as pas pris le jour du mariage, en fait tu n'es pas marié. C'est ça ton problème. Parce que non, elle a changé, elle s'est présentée, non, en fait tu n'es pas marié. Parce que quand tu es marié, T'es marié avec elle, t'es marié avec elle quand elle est jeune, et quand elle est moins jeune, et quand elle est maigre, et quand elle est grosse, t'es marié. Mais quand t'es pas marié, tu dis je suis marié à condition qu'elle reste magnifique. Non, t'es pas marié là. Sinon, non. Quand t'es marié, t'es marié. Donc prendre le joug du mariage et prendre le joug de la royauté divine, c'est la même chose. Ben toi, c'est pareil. Quand tu dis je mangerai pas ta rêve, je mange plus ta rêve, tu dis oh, un peu d'oursin et des écrevisses. Non, je mange cachère. Alors si tu manges cachère, comment tu fais du lashon hara ? Parce que tu n'as pas encore pris sur toi la lashon hara. Tu as pris sur toi la cacheroute, mais la lashon hara, non. Puis non, j'ai trop besoin parce que j'ai une belle sœur pourrie, je suis obligé de parler. C'est thérapeutique, même mon psy m'a dit, il faut que je parle. Mais en fait, tu n'as pas pris encore. Parce que quelle différence entre la lashon hara et le taref ? Quelle différence ? Tu n'as pas de différence. Donc en vérité, qu'est-ce que tu fais toute ta vie ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu deviens ce que tu prends sur toi. Tu deviens ce que tu prends sur toi. Maintenant, quand toi, tu as pris sur toi, on ne va pas t'éprouver sur une chose que tu as pris sur toi. Donc, ne t'étonne pas qu'on continue à t'éprouver sur des choses que tu croyais avoir atteintes, puisqu'en fait, tu les as toujours pas, tu n'es toujours pas devenu ce que tu as pris sur toi. Alors, voilà. Donc, Libonahol, au terme à chaîne, n'aie pas peur. Tu vois, cet enfant, il est bien dans sa peau, parce qu'il a une enfance heureuse. Il a une enfance heureuse. Maintenant, débrouille-toi pour lui donner cette enfance heureuse. Tu dis, j'arrive pas, parce que j'ai des problèmes, j'ai des soucis, j'ai des angoisses. La parnassa, c'est pas ça, c'est difficile. En plus, j'habite ici, et c'est pas ce que je croyais, et la communauté. Mais toute cette gueule pourrie que tu fais, c'est pas seulement que tu es en train de pourrir ta vie, tu es en train de pourrir tes enfants. Donc plus tard, après, ils n'arrivent pas à être forts dans la vie. Parce qu'ils se disent, je me rappelle, mon père, il restait toujours dans l'obscurité. J'ai jamais vu la lumière. Mais s'il a vu que la lumière, il a vu le positif, il a vu l'énergie, il a vu l'évolution. Il a vu les solutions. Lui aussi, quand il va rentrer dans la vie, il va être dans le haut, il ne va pas être dans le trop cher. Maintenant, pourquoi est-ce que nous, on regarde à court terme ? Pourquoi on ne regarde pas à long terme ? C'est pourquoi ? Parce qu'on a peur. Alors je te dis, t'as peur ? La peur, c'est juste un problème de Mouna. C'est tout. C'est un problème de Mouna. C'est quelle différence d'avoir peur que les enfants ils fassent des bêtises, ou d'avoir peur que ton mari il fait des trucs, ou d'avoir peur que ton ton employé te vole, t'as peur. Si t'as peur, renvoie-le. Ah non, j'ai pas peur. Ah, t'as pas peur? Laisse tomber. Ah, mais s'il vole, eh ben, il va voler un peu. Tous les employés volent un peu. Ah ouais, celui-là, il fait des photos qu'il copie pour sa fille. Celui-là, il joue pendant les heures de travail. Il vole un peu. Mais tu l'inclus dans le contrat, ça. Tu l'inclus. Comme les impôts, ils savent que tu fais du black. Ils l'incluent dedans. Même les impôts, ils disent que celui qui ne fait pas 20% de black, il ne peut pas tenir une boîte en France. C'est impossible. C'est si le gars, ils savent, les impôts, ils savent que si un gars, il fait 100% tout déclaré, il ferme la boîte. Ils savent. Donc, eux, ils ont une tolérance. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même Hachem, avec tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a fait de Tchouva, tout ce qu'on a compris, tout ce qu'on a étudié la Torah, le bon Dieu, il te laisse une petite tolérance. Parce qu'il sait que tu ne vas pas devenir demain ce que tu es censé être. Mais toi, tu ne peux pas profiter de la tolérance a priori. Tu peux seulement profiter de la tolérance a posteriori. Que quand tu tombes, tu vas remonter. Mais ce n'est pas que les Hatrila, tu dis je fais des Averot parce que de toute façon je suis traditionnaliste. Ça veut dire que tu es devenu rachat les Hatrila. Tu es devenu tordu a priori. Non, tu dis moi je fais tout ce qu'il faut. C'est le. On a lu hier soir dans le Tanan des Bidiaou. Ouais. Si quelqu'un dit Ani Mekabel, Kola Torah Kula, Khotmi Mitzvah, Arezé, Rachat Gamou. Il dit je prends toute la Mitzvah, toute la Torah sauf une Mitzvah. C'est un rachat. Ouais. Si quelqu'un il dit je peux faire le maximum, je vais tout faire. Mais il n'a pas réussi à tout faire. Arezé de sa vie. C'est ça que le Tosfot dans Kedushin il dit que Mishieshlo, Rov Mitzvot, Venmiut Averot. Ouais, Rob Mitzvot, il a une majorité de Mitzvot et une minorité de Averot, il dit Arezé Tzadik Gamour. Ce soit, il ne faut pas dire Tzadik Gamour. Tzadik Gamour, mais il a une minorité de Averot. Parce que tu le connais, toi, le gars qui a que des Mitzvot. Oui, j'étais à son enterrement la semaine dernière, mais non, c'est juste. Tous les jours, il y a des Averot, tous les jours, il y a des difficultés, jour l'un, jour l'autre. Mais c'est pas grave. Parce que vous avez compris maintenant, c'est pas qu'il y a le or et le rocher. Non, vous avez compris, c'est un cycle. D'accord? Donc il y a de la difficulté et il y a des solutions. Il y a une épreuve et il y a une réussite. Et il y a une Gemara qui est difficile. Et après, dans le Rachem, je dis, ah, je l'ai fait, elle est facile. D'accord? Et il y a cette épreuve, comment je vais parler avec mon beau-frère? Et après, j'ai été, eh ben, au Rachem maintenant, on est comme des frères, on se soutient, on se truc. Alors parce qu'on a dépassé cette distance et cette peur et cet orgueil. Donc de toute façon, or vé rocher, c'est un cycle. C'est pour ça que la nuit, je m'excuse de vous le dire, elle tombe tous les soirs. Et que le matin, il se lève au bout de la nuit. En général, ça se passe comme ça. Vous avez compris ou non? Maintenant, si vous avez compris que la nuit, que le jour se lève au bout de la nuit, ce qui est quelque chose qui est incroyable, parce qu'il fait jour, après il fait un peu sombre, après il fait nuit, après il fait nuit. Après, il fait nuit. Maintenant, au bout de 6 heures de nuit, il fait plus nuit qu'au début de la nuit. Donc, quand on arrive à 6 heures du matin, il fait beaucoup plus nuit qu'à minuit. Alors, comment ça se fait qu'à 6 heures et demie, il fait jour? Les gens disent, mais il est fou, celui-là. Il est venu de Paris pour nous dire des vendeurs. Non, je vous donne le secret. C'est que la lumière, elle va venir au bout de l'obscurité. C'est comme ça. La Géoula, elle vient au bout de l'obscurité. T'as vu la douleur de l'accouchement? T'as vu la douleur de l'accouchement? T'as vu la peur de l'accouchement? T'as vu le stress de l'accouchement? Et t'as vu la joie du bébé qui est posée sur toi? Cette joie-là, tu crois que tu aurais pu la voir si on t'avait livré un bébé par Amazon? Tu commandes. Les yeux bleus, petits, 52 cm, 3,2 kg, et tu le reçois. Et voilà, et voilà. Ah, fais voir. Oh, c'est lui. Oh, il est beau, ok, c'est bon. Il ressemble à qui? Je sais pas, si c'est Amazon, hein, tu sais, c'est. Non, 9 mois. C'est comme ça. Tu t'es crevé, tu t'es battu avec les banques, tu t'es truqué ça depuis 3 ans, l'immeuble il est là. C'est toi qui as fait ça? C'est pas évident. On l'a sué. Bon, Rachel, regarde ça. J'ai commencé à faire un petit truc dans le jardin. Un petit local pour l'association. Ça fait 25 ans que c'était chez moi à la maison. J'ai le droit quand même d'utiliser les chambres vu que mes enfants se marient. Alors j'ai amené un entrepreneur, un Turc. Et quand il a vu qu'on avait fait la dalle, il m'a dit ah mais ça y est, c'est sorti de terre. Il m'a dit c'est fini. Après le reste c'est rien. C'est sorti de terre. Et il m'a dit ce mot là.
J'ai dit, mais pourquoi on s'angoisse? C'est sorti de terre. Tu sais, qu'est-ce qu'on dit en français? Il est sorti d'affaires. Ah, il est sorti d'affaires. Ah, ton fils, il est là-bas. Ah, il est sorti d'affaires. Quoi? Il a pris sur lui. Ah, il est sorti d'affaires. Quoi, ta fille, ça y est, elle-même, elle a pris l'initiative, elle est rentrée à la fac, elle a avancé sur. Ah, elle est sortie d'affaires. Ah, toi, ton fils, il a pris ça sur lui, il a rien dit, il s'en vient de la banque, il est sorti d'affaires. C'est quoi sorti d'affaires? C'est quoi sorti d'affaires? C'est quoi sorti de terre? C'est la même chose. C'est ça le bord.
Oui?
Mais nous, on s'angoisse, on a peur, comment on va faire, hein? Ah, je t'ai dit la logique, c'est facile. Tu dois avoir la peur d'Hachem, mais pas la peur de rater.
Oui.
Tu dois avoir la peur d'Hachem et pas la peur du regard de l'autre. Tu dois avoir la peur d'Hachem et ne pas avoir peur d'avoir honte. Tu dois pas avoir peur de te planter. Tu dois avoir peur d'Hachem. Comme si tu devais avoir peur de décevoir ton père. Mais pas d'être nul. Parce que si tu es nul, tu crois que ton père il le sait pas. Mais si tu es un gars bien, ton père il est fier. Et bien, de la même manière que la reconnaissance psychologique par le père, elle n'est que la représentativité de la reconnaissance psychologique par le père. C'est ça, Aminou Sheba Shamaï. Toute notre vie, on veut être reconnu par notre père. Toute notre vie, on veut que notre père, il dise qu'on a kavod. Et bien, c'est exactement pareil. Ouais. Que Hachem, quand tu vas arriver là-haut, il va te dire qu'on a kavod. Ou alors, il va te dire, mais dis-moi, c'est moi qui a tout fait, en plus, tu veux frimer. Donc, c'est ça la logique. La logique en fin de compte que la peur, vous avez compris, que c'est l'espace que tu as créé entre toi et ta réalité. Et cet espace-là, il est vide. Mais il n'y a pas de vide. Parce qu'il y a Hachem dedans. Parce qu'il y a des choix, parce qu'il y a ton investissement, parce qu'il y a ta ishtadout, il y a ton effort. Mais si toi, tu crées la distance, et tu mets le etc., de la psychologie, de la mousse, d'accord, vous ne vous rendez pas compte, c'est parce que je vis, c'est trop difficile, vous ne le connaissez pas, la situation est difficile, la conjoncture est mauvaise. En vérité, qu'est-ce que tu fais? Tu remplis le vide. On dit en français, tu broies du vide. D'accord, tu développes un argumentaire. Mais c'est au profit de quoi? À quoi ça sert? Il y a une question, il y a une réponse. Tu dois l'argent, tu rends l'argent. D'accord? Ton mari, il est comme ça ou il est comme ça? Moi, toute la journée, alors, qu'est-ce que vous dites? Mon mari, non, j'ai écouté madame, j'ai une seule question. Est-ce que votre mari... il ne veut pas évoluer ou est-ce que votre mari, il ne peut pas évoluer? S'il ne peut pas, s'il n'est pas capable, les gens, ils ne peuvent pas. C'est leur nature, ils ont besoin. Donc tu es en train de te battre pour que le gars, il devienne un poète. C'est pas un poète, c'est un exécutant. Toi, tu veux qu'il devienne un chef d'entreprise. Non, le gars, c'est un employé. Il a un mental d'employé. Tu veux qu'il soit un patron. Parce que ton frère, il est patron. Parce que ton père, il est patron. Mais le gars, il n'a pas un mental de patron. Tu as essayé, tu l'as encouragé, tu lui as parlé, tu l'as obligé à faire des cours du soir de gestion. Il n'arrive pas. Donc, qu'est-ce que tu as? Deux solutions. Soit la personne, elle ne veut pas, et là, tu vas l'encourager. Soit la personne, elle ne peut pas. Si elle ne peut pas, tu vas t'épuiser à exiger d'un oiseau qu'il écrive, qu'il conduise une voiture. Maintenant, d'accepter ce que l'autre, il est, c'est du bitachon. D'accepter ce que l'enfant, il est capable, c'est du bitachon. D'accord, l'enfant il est assis, tu dis je l'aime. Alors ton enfant il dit papa je vais travailler, tu dis je l'aime, c'est mon fils. C'est mon fils, c'est normal. C'est-à-dire que tu continues à avoir un lien à 100% avec lui, malgré que. Mais et c'est pas lui qui t'a déçu, c'est toi qui t'es fabriqué ce que tu aurais voulu qu'il soit. Donc c'est toi qui as fabriqué la déception. Parce que si depuis le départ tu avais dit je l'aimerais tel qu'il sera, au lieu de dire je l'aimerais s'il est ce que je veux, tu n'aurais jamais été déçu. Ben c'est exactement pareil. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait des conditions avec le bon Dieu. Je veux que la maison, elle se vende. Je veux que la fille, elle se marie. Je veux que la naissance, elle vienne le dimanche. Comme ça, on fait la brit mila dimanche prochain. Ouais. Je veux que le client, il dise maintenant, oui. Je veux que les employés, ils savent exactement comme j'attends. Je ne veux pas être déçu du tout de ma famille. Le bon Dieu, il dit, écoute, j'ai mon mot à dire, mon lamano. Le bon Dieu, il dit, oui, alors, ben, havot. D'accord. Donc, c'est ça, la emouna. La emouna, c'est pas d'espérer que Dieu va me donner ce que je veux. C'est d'être capable d'accepter ce que Dieu m'a donné. Ce qui n'exclut pas l'ambition, ce qui n'exclut pas l'investissement, c'est pas baisser les bras parce que je ne maîtrise pas toute la machine. Ouais. Mais ce que je vais investir, je vais l'investir avec une sérénité. Pourquoi? Parce que je suis beauté à ma chère. Je sais que c'est pour le bien. Je sais que ça va sortir bien.
Alors ça ne va pas être le timing exactement, ça ne va pas être forcément les circonstances. Ça ne va pas venir de la manière que je croyais, mais je sais que c'est pour le bien. Si B émet, je sais que c'est pour le bien, alors pourquoi on va me montrer le contraire? Mais si moi je dis je suis le patron, le bon Dieu il me dit écoute, ok, tu es un gars intelligent, mais c'est moi le patron. Alors le patron, il va t'expliquer c'est qui le patron. Et le patron, il explique très bien. D'accord? Donc nous, on fait ce qu'on a à faire. On éduque nos enfants, on leur donne l'amour, on les met dans les bonnes écoles, on leur rentre la Torah, on les met avec les bonnes personnes, on les fait rencontrer les choses. On met une bonne atmosphère dans la maison, on met beaucoup d'amour, on met beaucoup de remise en cause, on travaille notre couple, on évolue dans notre Torah, on essaie d'être le plus sincère possible avec Hachem, on grandit dans les mitzvot, on s'applique à faire un Shabbat Bessimcha, on étudie la Torah en se cassant la tête, on a fait ce qu'on avait à faire. D'accord? Après, le bon Dieu, il fait ce qu'il a à faire. Chacun, il fait ce qu'il a à faire. Ça va? Alors regardez, j'ai amené quelques livres comme ça. En fait, on en a fait 5000 de chaque. Ça, c'est une des actions qu'on fait dans l'année. D'accord? On a fait 10 000 livres comme ça. Là, j'en ai amené un petit peu à la mémoire de notre grand-père. Donc, il est là. Donc, ils sont au père, ils sont à l'extérieur. On a aussi distribué 300 000 cours en CD. On a distribué 500 000 cours sur Facebook. 220 000 cours sur YouTube. D'accord? On a fait plus d'un million de cours l'année dernière en diffusé. Plus d'un million dans notre chaîne.
D'accord.
Donc on a quelques balais, tu vois.
Et combien de personnes vous êtes?